Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Mon Paris FM dans l'émission Au bout du foot présentée par Eladji Makalou. Avec nous ce soir, on a du beau monde autour de la table. Avec nous, un retour de l'incontournable Abou. Comment vas-tu Abou ?
Ça va, ça fait longtemps.
Ça fait très longtemps, t'as un peu...
Un peu de vacances, un peu de repos.
Un peu de boycott aussi. J'espère que tu nous écoutais au moins.
Oui, bien évidemment. J'ai écouté quand Malik bafouillait sur le nom de Léo qui est juste là à ma droite.
Exactement. Comment ça va, Léo ?
Ça va et toi, Eladj ?
Ça va, super. Comment ça va pour une deuxième ?
Bah écoute, l'OL s'est qualifié en finale de Coupe de France, moi tout va bien.
Supporter lyonnais aux anges.
Direct.
Quand il y a un Olympique qui va bien, il y a un autre Olympique qui va pas très bien. Et on pense notamment...
Tant mieux pour nous.
Oui, ouais, tant mieux. Mais bon, moi, j'aimerais bien voir Malik aussi autour de la table parce que quand Marseille va mal, Malik aussi va très mal. Du coup, on espère le revoir très bientôt et on lui fait un gros bisou à Malik. Comment ça va, Lucas ?
Ça va bien, toi ?
Ça va, super. Ça va pour une première ?
Ouais, première détendue. On a déjà fait l'émission politique avec Abou. Là, c'est le foot. On va se détendre.
C'est ça. Ok, super. Alexandre, un habitué, t'as pas bougé de place. Hein. T'étais là juste avant dans mon Paris Sport et là, t'enchaînes avec Au bout du foot.
J'enchaîne, tout va bien, week-end chargé, et voilà, j'ai hâte de parler avec vous, football.
Super, nous aussi on a hâte. Ibrahima, comment ça va ?
Salut Eladj, ça va ?
Ça va, super. Et toi, ça va ? Pas trop fatigué ?
Non, ça va, pas trop fatigué.
T'as suivi des bons matchs quand même ?
Ouais, j'ai suivi la Ligue 1 et les championnats étrangers, de toute façon on aura l'occasion d'en parler.
C'est ça, faut bien préciser la Ligue 1, parce que
oui.
Ibrahima, on dit, non. Toi tu regardes pas trop la Ligue 1.
Là j'ai regardé ce week-end, voilà. Franchement j'ai suivi.
Ok, et j'espère que tu t'es régalé quand même.
Ça va, il y a eu quelques bons matchs.
Il y a eu des bons matchs, ok. Merci. Et Namir, c'est bien ça ?
Némir,
pardon. Comment ça va, Némir ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va, super. Bon, toi, j'ai même pas besoin de te demander si tu te sens à l'aise ou pas. Ça se voit tout de suite, t'es à l'aise, tranquille.
On est là, tu connais.
Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, bah, on va lancer dès le début. On va lancer les 30 secondes chrono, s'ils sont prêts. Hein, on va lancer. Ça va être parti pour Alexandre. 30 secondes chrono, Alexandre, c'est parti.
C'est parti, alors moi je voulais parler, je voulais sortir de l'Europe et parler de la Ligue des Champions africaine. Je sais pas si vous avez suivi, moi j'aime bien suivre cette compétition. À mon grand regret, la SEC Mimosa s'est fait sortir par l'Espérance Tunis. Et donc du coup en qualifié, donc on a l'Espérance Tunis, le Mamelodi Sundowns qui s'est qualifié au tir au but avec des parades de Ronwen Williams, je sais pas si vous avez suivi. Et le tout puissant Mazembe et Al-Heli qui seront en demi-finale. Donc j'ai hâte de voir qui va gagner cette compétition.
Ok Alexandre, bah franchement moi je vous avoue que je suis pas trop, un peu de loin, hein. Le tout puissant Mazembe on le connaît, c'est un grand d'Afrique en tout cas, ça fait un moment, et on suit un peu de loin, qui s'y connaît un peu et veut apporter quelque chose, un peu d'eau au moulin ? Personne.
Ah, je suis le seul à suivre en fait.
T'es excellent, bah, c'est pour ça que t'es là Alexandre, c'est ouais. Pour ça que t'es là, il faut des personnes comme toi quand même autour de la table, quand même. Du coup on va enchaîner avec le 30 secondes chrono de Léo. C'est ouais. Parti Léo.
Alors moi je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier soir en Supercoupe de Turquie. Il y avait Fenerbahçe qui devait affronter Galatasaray. Et à cause d'un différend avec la fédération turque, on a vu que Fenerbahçe a décidé d'envoyer ses U19 qui ont joué une minute, pris un but au bout de 50 secondes avant de quitter le terrain. Et la rencontre était terminée. Du coup pour combler le vide, Galatasaray a joué contre ses remplaçants. Donc c'est une scène assez atypique et c'est le football turc un petit peu quoi.
C'est une scène un peu incroyable, hein. le football turc en ce moment qui est un peu en déclin, j'ai envie de dire. En tout cas, pas sportivement, mais plus ce qui se passe autour avec les supporters qui en ont vraiment marre, qui rentrent sur les terrains. Et franchement, ça devient un peu compliqué. Dites-moi, moi, ce que vous en pensez, vous.
Moi, j'ai vu un communiqué du Fenerbahçe aujourd'hui qui a dit que ben, en fait, ce qui s'était passé hier, c'était en quelque sorte une rébellion contre des injustices, selon eux, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de quitter le terrain. Je n'ai pas compris grand-chose à part ça.
Non,
ils estiment être lésés, mais de quoi, je ne sais pas.
Parce qu'à la base... Oh, pardon, excuse-moi. À la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont demandé à déplacer le match et avoir un arbitre étranger. Et ça ne leur a pas été accordé par la fédération.
Et Lucas, toi, tu avais autre chose
à dire. Ouais. ça, du coup, en Turquie, il y avait aussi le match, il y avait des joueurs qui sont fait agresser par des supporters. En fait, c'est un peu un réaction.
C'était aussi le Fenerbahçe, ça.
Exactement. C'est pour ça qu'ils voulaient jouer sur terrain neutre avec un arbitre étranger, mais ça leur a été refusé. C'est ce qui explique leur décision.
En tout cas, là, ils ont tapé fort du poing sur la table. Et je pense que les spectateurs même n'ont pas dû être très contents de voir Galatasaray contre Galatasaray. Et franchement, voilà.
C'est peut-être le match le plus facile que les joueurs de Galatasaray ont eu à jouer de leur vie. Ils ont joué 3 minutes.
Ouais, je pense. Et Icardi, le but heureux aussi, qui a marqué le plus rapide, sans doute, aussi de sa carrière. Du coup, ok.
Bah, contre des U19, ça rappelle un mauvais souvenir.
Oui. On s'en rappelle vaguement. Après, ça fait très longtemps que ça a été essuyé. Ça fait plus de 13-14 ans quand même que l'OM n'a pas réussi à faire un résultat face au PSG. Donc franchement, je pense qu'on va pas le retenir.
L'OM a quand même battu le PSG en 2021 avec André Villas-Boas.
Ah, tu veux parler,
13-14 ans, je vois que tu veux remonter.
Jason, s'il te plaît, on peut enchaîner s'il te plaît. Bah 30 secondes chrono d'Abou, c'est parti.
30 secondes chrono, moi c'est sur Clément Grenier que j'ai eu la chance d'interviewer ce matin avec mon camarade de classe Némir. Némir qui n'est pas juste un co-chroniqueur, qui est aussi camarade de classe. On a eu la chance ce matin d'interviewer Clément Grenier. Et moi je voulais revenir sur ce qu'il nous a dit, surtout sur l'aspect mental dans le football et sur l'aspect physique. C'est vrai que c'est un aspect négligé et je trouve ça bien que les footballeurs libèrent la parole à ce sujet-là. On a eu Raphaël Varane il n'y a pas très longtemps et maintenant il y a Clément Grenier aussi qui commence à en parler. Et c'est très important que les footballeurs le fassent et il faut qu'ils aient cet accompagnement psychologique qu'il n'y avait peut-être pas autrefois.
Merci beaucoup, pile dans le temps additionnel, comme d'habitude, un cravate bleue, la cravate la plus connue de France.
Merci,
merci à vous.
Ça, je vais découper et partager sur Insta, merci beaucoup.
Merci encore à vous pour ce beau petit reportage, entre guillemets, que tu as pu faire avec Clément Grenier.
Très sympathique d'ailleurs, je ne sais pas ce que Némir en a pensé. Très très sympathique, très très bavard. Et tu sens que c'est un passionné et c'est un gars que tu retrouveras très certainement derrière un micro en train de parler football.
C'est sûr que dans pas longtemps vous allez le voir sur les chaînes peut-être de Bein Sport en tant que consultant, parce que il aime le foot, ça se voit, ça s'entend. Il a même dit qu'il avait regardé, il regarde 4 matchs par jour. Sa femme en a marre, il joue en D2 espagnol, mais il est toujours aussi passionné qu'avant. Et franchement, c'était super cool de pouvoir l'entendre parler. Il est super sympa.
Bah, on espère en tout cas que vous pourrez interviewer encore de plus de joueurs professionnels et de plus grands joueurs aussi. Du coup, on l'espère.
Très grand joueur, Clément Grenier, déjà. Pour moi, c'est le summum.
Ah oui. Je sais pas si c'est ironique ou pas.
Parce qu'il l'a vu ce matin. C'est peut-être pour ça. Il est encore sous l'effet. Mais je pense qu'il va redescendre. Il va réécouter. Il va dire non, franchement. On va enchaîner avec un 30 secondes chrono pour Ibrahima. C'est parti.
Alors moi, pour ce 30 secondes chrono, je voulais parler de la défaite 6-0 de l'Ajax d'Amsterdam ce week-end face au Feyenoord Rotterdam. L'Ajax d'Amsterdam qui fait sûrement l'une des pires saisons de son histoire en Eredivisie, qui se classe aujourd'hui 6e au bout de 29 journées. C'est très rare de voir l'Ajax dans cette position-là et on espère qu'ils vont rebondir le plus vite possible parce que c'est assez flagrant de retrouver cette équipe légendaire du championnat des Pays-Bas aussi bas dans le classement hollandais.
C'est vrai que on avait tendance même à ne même plus voir l'Ajax en première division. Hein. On sentait qu'en tout cas cette année, ça allait être le maintien. Très mauvais début de saison.
Ils ont su se relever, mais
du coup, je pense qu'il y aura une Coupe d'Europe, mais c'est toujours pas ça. C'est très difficile. Je pense que Lucas voulait aussi rebondir sur ça.
J'ai été marqué par la même chose qu'Ibrahim Basouken, parce qu'il faut savoir que Feyenoord, c'est un des clubs rivaux de l'Ajax, qui leur a mis 4-0 à l'aller. Ça fait 10-0 sur les deux matchs, c'est énorme. Là, ils sont 6e. J'ai regardé le classement de tout à l'heure. Ils ne sont pas du tout sûrs d'aller en Coupe d'Europe. Et du coup, j'ai vérifié la dernière fois que l'Ajax n'a pas été en Coupe d'Europe. C'était en 90-91. Ouais, c'est ça. Ils avaient suspendu administrativement. C'était une bagarre sur un terrain. Mais la dernière fois qu'ils n'y sont pas allés sportivement, sans se qualifier, c'était en 58-59. Okay. Ça, ce serait vraiment un tremblement de terre si l'Ajax.
Bon, après moi je pense, parce que c'est très large quand même leur qualification, et je pense que même là encore ils sont encore dans les taux, en tout cas dans les cadrans pour être en conférence même, mais je pense qu'ils iront en conférence, mais c'est vrai que ça
Ils jouent ils ont été éliminés en Ligue Europa Conférence
par Aston Villa.
Oui, c'est saison par Aston Villa
qui joue contre Lille
ce jeu. Exactement.
Après, c'est tout le club qui va très très mal depuis le départ d'Overmars, Van der Sar, Putenhag.
Ouais, ça cool.
Il y a même un retour des hooligans chez eux aussi qui font beaucoup de mal au club, donc c'est pas la forme à l'Ajax.
Tu vas nous sortir un autre 30 secondes chrono, Lucas, vas-y.
Je vais essayer, j'avais, parce que les deux que j'avais choisis sont déjà sortis, mais j'avais un troisième parce que j'ai vu que Glasgow Rangers et les Celtic Glasgow ont fait un gros match nul 3-3 ce week-end. C'est des clubs dont on parle peu, mais qui ont gagné des Coupes d'Europe qui sont plus titrés que beaucoup de clubs français. C'est marrant de voir que ces deux clubs, ils martyrisent le championnat écossais depuis 50 ans. Ils partagent absolument tous les titres. Toujours des équipes sympas à regarder. Le foot écossais, c'est quand même très particulier. C'est le kick and rush un peu à l'ancienne du foot anglais. Donc voilà, ça m'a fait réagir aussi.
C'est vrai que ça a été un match avec beaucoup de rebondissements. Hein. J'ai pu le suivre aussi parce que c'est le genre de match que moi j'aime aussi et que j'apprécie. Voilà, c'est le match un peu physique, comme on dit, du box-to-box pur. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime, hein, le spectacle. Quand je regarde du football, moi, c'est vraiment pour le spectacle. Et avec eux, on a vraiment été servi, en tout cas, ce week-end.
Bah, dans tous les sens.
Exactement. Du coup, on va enchaîner avec Némir pour le 30 secondes chrono.
Bah alors, c'est moi, parti. Pour mon 30 secondes chrono, j'ai décidé de vous parler de Manchester United-Liverpool qui s'est déroulé ce week-end. Très, très grand match, là, encore une fois. C'était déjà l'affiche de Coupe d'Angleterre où il y avait déjà eu 2-2. Et bien là, ce week-end en Première Ligue, il y a encore eu 2-2, alors que Manchester United n'avait tiré 0 fois au but en première mi-temps. Les joueurs d'Erik Ten Hag ont réussi à décrocher le nul contre Klopp. Et Klopp, là, pour sa dernière saison avec Liverpool, il a battu Manchester United 0 fois, ce qui pourrait peut-être lui coûter le titre au final. Un but de Kobbie Mainoo d'ailleurs à signaler. Excellent, magnifique but.
Magnifique
je sais pas ce que vous pensez de Mainoo. Mais...
De Mainoo. Ceux qui ont vu le match, hein, je pense que la première mi-temps, ça a vraiment été à sens unique. Hein.
Ah ouais.
Liverpool qui ont fait 15 tirs, 4 cadrés, si ma mémoire est bonne. 15 tirs, 4 cadrés.
Beaucoup de touches dans la surface.
Beaucoup
aussi.
De touches dans la surface et beaucoup de loupés. Hein. Ils n'ont pas été très justes.
Salah n'a pas été très
Mais il y a un manque d'efficacité à Liverpool ces derniers temps, je pense, qui est dû partiellement à l'absence de Jota, parce que Jota, c'était...
Exactement.
Un finisseur, c'est peut-être le meilleur finisseur de l'effectif sur son ratio tir-but. Et donc là, il a d'ailleurs son retour qui va pas trop tarder. Je crois qu'il est dans le groupe pour la prochaine rencontre, je suis pas sûr. Mais
On espère, en tout cas, parce que franchement, là, ce Liverpool-là va pas très bien. En tout cas, dans le jeu, c'est bien, mais voilà.
Ça manque d'efficacité.
C'est vrai que depuis le départ de Sadio Mané, notamment offensivement, je trouve que Liverpool pêche un petit peu à retrouver un remplaçant. Que ce soit Gakpo ou Núñez, je trouve que c'est assez compliqué. Il y a Luis Diaz qui fait des différences de son côté, mais c'est pas forcément le même profil. Et pour marquer des buts, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ils ont pas mal de difficultés.
Moi, je tiens à souligner Núñez quand même. Je pense qu'on n'en parle pas assez cette saison. Il fait vraiment une saison largement meilleure que celle de l'année dernière. Il rate encore beaucoup de choses. Dans le dernier geste, il est quand même assez maladroit. Mais moi, je trouve que c'est un déstabilisateur hors norme sur le terrain. C'est vraiment, quand il est là, il amène la panique dans la défense. Donc voilà, je trouve que Núñez, il est vraiment sur la bonne voie pour vraiment marquer Liverpool de son empreinte.
Puis on parle d'un joueur qui est à 18 buts, 13 passes D, toutes compétitions confondues. Donc c'est vrai qu'on voit ses progrès. On se souvient du Community Shield l'année dernière, quand il avait fait un énorme match et qu'Haaland, lui, avait loupé une occasion toute faite à un mètre du but. Tout le monde avait commencé à descendre à Londres. Au final, on a vu que la première saison, c'était Núñez qui avait eu plus de mal. Là, ça commence à se rééquilibrer. Et c'est bien pour le football anglais, je pense.
Ouais.
Franchement, moi, j'ai envie de revenir un peu là-dessus. Hein, parce que moi, Liverpool, il me laisse un peu sur ma faim, entre guillemets. Là, c'était très compliqué. Parce qu'en plus, on avait vu en FA Cup. Et on voyait dès la première période, on voyait Jurgen Klopp qui était vraiment, il était en train de crier. Il était pas stable du tout. Et il n'était pas serein. Même après le 1-0, il n'était pas serein. Parce qu'il savait déjà ce qui s'était passé en FA Cup. Et que ça pouvait se reproduire. Parce qu'en FA Cup, c'était à peu près le même match. Liverpool qui dominait Manchester United. Et qui n'ont pas réussi finalement à faire le break et à s'imposer finalement. Et c'est exactement ce qui leur est arrivé encore cette fois-ci. C'est ce que je trouve très dommage. Et il a bien affirmé que Arsenal, en tout cas une équipe d'Arsenal, comme comment ils jouent, ils seront capables de battre cette équipe de Manchester United. Du coup, il vaudrait mieux pour Liverpool qu'ils soient beaucoup plus justes dans les prochains matchs à venir. Et je pense que le retour de Diogo Jota va leur faire beaucoup de bien.
Ouais.
Du coup, on va enchaîner avec la question ABDF. Jay, s'il te plaît, ça va être parti. Les stades français sont-ils en retard en termes de spectacle? Telle la question, on va commencer avec Lucas. Je peux la répéter si tu veux.
Non, bien sûr, en termes de spectacle. Dans les matchs?
Dans les tribunes, quoi.
Et moi, quand j'ai vu la question, j'ai pensé aussi au stade en lui-même. Ouais. On est quand même vachement déjà en retard sur les infrastructures.
Ouais.
Pour moi, ça dénote d'un amateurisme global du foot français. On n'est pas un pays de foot, ça se dit beaucoup. Moi, je trouve que c'est très très vrai. La taille des stades, la qualité des infrastructures, l'accessibilité ne sont pas au rendez-vous. On a des clubs qui changent de stade pour jouer des Coupes d'Europe. On se rappelle de Lille en 2007. Il y a eu l'histoire aussi de l'USNAC qui devait remonter en Ligue 2. Et comme ils n'avaient pas un stade qui était aux normes, ils sont partis en National 2. Donc au lieu de monter, ils ont descendu une division. une des grandes injustices du football français de la décennie. Et sinon, en France, je crois qu'il y a encore eu 2-0-0 pendant cette journée, et hormis le 4-3 Metz-Brest, c'est assez catastrophique. Moi, je suis assez déçu des locomotives de la Ligue 1. Le PSG fait le boulot sans plus, Marseille, ça la ramasse, Monaco, tient tant bien que mal, Lyon, est à la ramasse, ça va mieux. Je pense que les clubs qui ont la responsabilité de rendre le championnat compétitif sont pas à la hauteur cette année, et ça fait un moment qu'ils le sont.
Merci Lucas. Léo, je te sens un peu pas très d'accord, en tout cas surtout quand on évoque Lyon, je te sens tout de suite...
Non, moi je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai qu'à la lecture du sujet, je pensais qu'on parlait de est-ce que le spectacle dans un stade, les shows d'avant-match, et du coup je me disais, est-ce que c'est dans la culture française aussi ? J'étais à Lyon mardi soir pour la demi-finale de Coupe de France, et oui, il y a eu un show qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, mais pour le coup, il faut se souvenir qu'une ville comme Lyon, qui est surnommée la ville lumière, c'est assez logique qu'il y ait des shows. Un club comme Paris, je trouve ça, en tout cas dans ce qu'ils veulent en faire du club, je trouve ça aussi assez logique. Donc est-ce qu'un club comme Metz ou comme Brest, qui n'est pas... qui ne met pas en place des pyros, des jeux de lumière, est-ce que c'est dérangeant ? Non. Après, si on parle du spectacle sur le terrain, effectivement, la Ligue 1, c'est un championnat qui s'homogénéise vachement. Les petites équipes commencent à grandir, mais le problème, c'est que les meilleures équipes, elles ont beaucoup plus de mal à s'imposer. Et d'ailleurs, une équipe aujourd'hui, quand on voit Paris, qui n'est pas exceptionnelle, des clubs comme Monaco, des clubs comme Nice, des clubs comme Lyon, des clubs comme Marseille, ça devrait être pendant ces saisons-là qu'ils viennent concurrencer le Paris Saint-Germain. Et on voit qu'ils ont 10 points d'avance tranquillement devant Brest en plus, sans vouloir manquer de respect aux Brestois, parce qu'ils font une saison absolument folle.
Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, puisque tu dis toi-même que ces petits clubs ont du mal, mais là on voit bien Brest qui joue que le maintien, là sont deuxièmes et sont bien confortables dans leur siège en tant que dauphin du PSG. Là, est-ce que c'est pas un peu paradoxal le tout, quoi? On a pu voir l'année dernière, le deuxième, c'était pas Marseille, il me semble, en tout cas.
C'était Lens, le deuxième.
Du coup, ça varie pas mal, quand même. En tout cas, en termes de deuxième, il n'y en a jamais un qui reste fixe. C'est jamais le premier, le PSG, et le deuxième, tout ce qu'il en suit. Entre le reste du championnat, on va dire, ça bataille pas mal. Mmh. Némir, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, déjà, je voulais revenir vraiment sur ce que Lucas a dit, parce que moi, je suis pas du tout d'accord, en fait, quand on dit que la France n'est pas un pays de foot. Moi, franchement, ça ne me va pas du tout comme argument. Peut-être que la France n'est pas un pays où la priorité est le foot, mais la France est un pays de foot.
Et je te coupe juste, je pense que tu n'es jamais allé dans un vrai pays de foot alors.
Je te dis la vérité. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense que la France est un pays de foot. Ouais. Après, c'est peut-être un autre débat, mais moi, selon moi, la France est un pays de foot. Pourquoi ? Un argument très simple. Dans le top 10 des villes qui produisent le plus de joueurs à haute valeur marchande, il y a 3 villes françaises au moins, et ça c'est que de tête ce que je te dis là. Il y a Paris, il y a Lyon et il y a Marseille. Voilà, dans le top 10. Donc les meilleurs joueurs aujourd'hui, un grand pourcentage des meilleurs joueurs de la scène foot mondiale sont français ou ont fait une formation en France ou sont passés par la France. Moi je trouve que le rôle de la France est vraiment, surtout parce que les Français sont très durs envers la France tout le temps. Donc voilà, moi je trouve juste que c'est vraiment trop facile de dire que la France n'est pas un pays de foot. Moi, je pense que c'est juste un pays où la priorité n'est pas mise sur le foot.
Ça a le mérite d'être clair. Brahima, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout
ça ? Pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est surtout au niveau des instances où les gens pensent que la France n'est pas un pays de foot.
Et voilà, c'est ça.
C'est pas au niveau du peuple. Les Français aiment le foot. Et on le voit même avec les résultats de l'équipe nationale. C'est pas ça le problème. C'est au niveau des instances. Quand on voit certains matchs, par exemple, hier, Nantes, il n'y avait pas de supporters. C'était pas suite à un fumigène, je crois, qui avait été allumé. C'est par rapport à ce genre de décision quotidienne qu'on se dit que peut-être que la France n'est pas un pays de foot, ou on sanctionne direct, ou on sanctionne pas assez, en fait. Je pense que c'est plus par rapport à ça.
Mais sur ça, je suis d'accord, en termes des instances, etc. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée de ce n'est pas un pays où on met la priorité sur le foot, en fait.
Et pour rebondir sur ce qu'il disait Ibrahima, quand il parle de, par exemple, à Nantes, une tribune fermée à cause des fumigènes, et pour
c'était
revenir...
à huis clos hier.
Pour, à huis clos, encore pire, pour revenir à ce que tu disais, recentrer le débat sur la question est-ce que la France est un pays où les stades manquent de spectacles. Moi, je l'ai compris en termes d'ambiance. Et en termes d'ambiance, très clairement, on est en retard, contrairement à énormément de pays. Quand tu sais qu'à Marseille, contre le PSG, il y a eu des feux d'artifice qui ont été tirés et que les supporters marseillais seront très certainement sanctionnés pour cela. Quand tu sais qu'à Lyon, comme il le disait tout à l'heure notre ami Léo, il y a eu un simulacre de choix à l'américaine en avant-match et que ça a été critiqué et recritiqué sur les réseaux sociaux. Enfin, tu sens que dans ce pays-là, en tout cas, après que ce soit un pays de foot, pas de foot, ça, je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais en termes de spectacle, en tout cas, on est très clairement en retard. On n'est pas comme les autres pays. Et quand Alexandre, il disait, oui, t'es très certainement pas allé dans un pays de foot. C'est sûr que en France, on vit pas le foot comme on le vit ailleurs. Enfin, dans les autres stades. Et j'ai envie de te dire, même en Angleterre, par exemple, où il n'y a pas d'ambiance, par exemple dans les stades, où il n'y a pas d'ambiance, tu ressens... Pour moi, il n'y a pas d'ambiance dans les stades anglais, en tout cas.
Mais il faut... Voilà.
Oui, mais ce qui est regardé, c'est la... Ce qui est regardé, c'est la première division. En tout cas, tu sens qu'ils vivent le foot autrement que nous ici en France, où même en ayant les stades remplis, t'as pas l'impression qu'il y a cette ferveur derrière, à part pour certains clubs comme par exemple
Lens.
Marseille, Lens, Bordeaux. T'as Toulouse aussi qui est pas mal,
Saint-Etienne,
Atlantique, laisse tomber, t'as le PSG aussi qui est pas mal, t'as Saint-Etienne, t'as Reims, moi j'ai eu la chance de faire Reims, d'ailleurs je conseille à tous les Parisiens, Reims c'est à côté, c'est vraiment à une heure et quart de train, je vous conseille d'aller voir un match à Reims en
week-end. J'étais tombé sur le mauvais match à mon avis.
Moi j'y étais il y a un an et demi et franchement j'ai kiffé Auguste Delaune, c'était vraiment une très belle ambiance.
Moi je suis d'accord avec ce que tu dis Abou, mais pas entièrement, parce que en fait là les arguments que tu as utilisés, c'est des arguments sur des sanctions après utilisation de pyrotechnique, etc. Mais on parle de quoi en fait? On parle du public dans les stades. Est-ce que c'est là où on est en retard, ou est-ce que c'est dans la façon dont on traite le public dans les stades qu'on est en retard? Moi je pense que c'est dans la façon dont on traite le public dans les stades qu'on est en retard, parce que dans les stades il y a de la ferveur en fait. Moi, je trouve, pas dans tous, j'ai pas fait énormément de stades en France, mais je sens qu'il y a quand même, il y a des matchs où les supporters, ils sont là, tu vois, et on les entend, et on les voit avec des tifos, des fumigènes, etc. Après, comment est-ce que la Ligue, et comment les instances juste sanctionnent ça, c'est ça qui, pour moi, c'est un sujet différent, en fait. C'est peut-être sur ça qu'on est en retard, là-dessus, je suis d'accord, mais je pense que la ferveur, elle est là, en fait. Moi, j'ai vu des choses sur des terrains de Ligue 1, depuis mon canapé, que j'ai pas vu sur des terrains d'autres championnats. Quand tu vois, bon après c'est un exemple particulier parce que c'est un PSGOM. Oui, mais est-ce que t'as déjà vu un Dortmund Bayern avec une fumée, tu vois pas même toi de ton stade de.
J'ai
déjà
vu les matchs en Turquie.
Mais ouais, est-ce que tu regardes les matchs en Turquie?
La France en Serbie.
D'accord, mais la Turquie c'est un pays du top 5 des championnats.
Même le championnat, je vais surprendre, même le championnat croate, tu regardes des matchs de Ajax Split, tu vas voir la ferveur.
Je pense que.
Mais là, est-ce qu'on parle de...
Pas forcément le top 5, non, mais en fait, depuis tout à l'heure, je pense qu'on parle pas de la même chose.
Ouais, je pense, ouais.
T'as raison quand tu dis que la France produit beaucoup. La France, c'est un pays qui produit énormément d'excellence.
C'est aussi le deuxième pays le plus peuplé de l'Europe, hein. C'est aussi, ça prendra en compte aussi.
Mais même au-delà de ça, en fait, quand on dit que la France n'est pas un pays de foot, ça veut dire que le foot s'inscrit pas dans la culture populaire du pays. C'est-à-dire, tu vois, au Royaume-Uni, en Italie, etc., il y a des penseurs du foot. Ici, c'est Didier Deschamps qui bétonne la référence.
Ah, là-dessus, je suis d'accord.
On n'a pas des Arrigo Sacchi, on n'a pas des... Tous ces mecs-là, on n'a même pas, même en José Mourinho, on ne l'a pas. Ça, déjà, ça en fait partie. Ensuite, il y a la façon dont, effectivement, les pouvoirs publics traitent le problème, etc. On voit que ce n'est pas ancré dans la culture du pays. Et même au niveau des représentations, je veux dire, en France, les intellectuels, entre guillemets, sont assez méprisants envers tout ce qui est l'activité sportive, le foot. En Angleterre, il y a par exemple Ken Loach qui met du foot dans quasiment tous ses films. En fait, la France, déjà, n'est pas un pays de sport. Les grands sportifs qui l'ont dit, Florent Malodou l'a dit il n'y a pas longtemps.
Teddy Riner, il l'a dit, beaucoup de gens.
Même chose. On ne sait pas les accompagner dans la maximum de leur performance. Il y a beaucoup de joueurs qui s'exilent pour performer. Et dernier exemple, on voit que par exemple Griezmann a dû aller en Espagne pour percer et qu'il est indispensable pour le succès depuis 2 ans et que la formation française n'a pas réussi à sortir un profil de ce type depuis des années. On peut se dire qu'il y a un problème aussi dans la formation.
Ou alors on peut se dire qu'il y a une exigence.
Non,
il y a un gros problème dans la formation en France.
Après, tu sors d'autres profils.
Oui, mais c'est souvent les mêmes.
On dit que les profils recherchés chez les jeunes, tous les scouts en tout cas le disent, par 1m80 à 14 ans, il faut courir vite, il faut être fort, et en fait, on ne favorise pas les joueurs qui sont techniques, qui ont la meilleure compréhension du jeu, donc on va sortir des joueurs qui sont un peu stéréotypés, des joueurs un petit peu artistes, qui sont un peu différents, on en verra de moins en moins en France.
C'est vrai, et j'ai pas envie de vous couper dans votre débat, mais il faudra qu'on poursuive, les gars. C'est juste que c'est vrai, hein, bah, après, comme on peut dire, mais c'est, moi je trouve que c'est pas que en France aussi, parce que dans d'autres pays aussi, c'est ce qui est requis, où ils demandent par exemple un défenseur central en Angleterre, ça passe pas si tu fais pas 2 mètres et si tu pèses pas 120 kilos. C'est, voilà, et pourtant, on a très bien vu des défenseurs plus petits qui font le taf. Oui, Abou.
Et juste pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, il y a même Clément Grenier qui nous le disait ce matin, par exemple en Espagne, les joueurs qui sont formés en Espagne, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à s'exporter ailleurs et à jouer dans d'autres championnats comme la Ligue 1, etc. Et
Alors
que les Français, eux, c'est des joueurs qui arrivent à s'exporter. Donc oui, on ne sort pas de joueurs techniques, etc. Et,
alors qu'on les a.
Mais on sort quand même d'immenses joueurs. La formation française, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas un problème. Comme tu vois, le nombre de joueurs incalculables qu'on a sortis et qu'on fait jouer à travers tous les pays du monde, que ce soit les pays africains, asiatiques, européens ou à travers l'équipe de France.
Merci Abou. Bon, faudra vraiment qu'on poursuive, les gars, parce que sinon on va être en retard sur le programme. Avec nous, Stéphane Desenclos de Quotidien du Sport. Comment ça va, Stéphane ?
Ça va très bien, et vous, ça va ? Bonne soirée.
Ça va, on t'entend pas très bien, mais on va bien en tout cas.
Attendez, vous m'entendez bien, là ? Allô ?
Oui, un peu, mais pas assez.
Et là, un peu mieux, là ?
Oui, un peu mieux, là. Comment ça va, Stéphane ?
Bah, ça va très bien, ça va très très bien. Je me régale, je me prépare à vivre, je pense, une des plus belles semaines de l'année sur le plan foot, en tout cas, donc oui, de la saison. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on attaque cette semaine. Et voilà, j'ai entendu un petit peu votre débat, là. Je vous écoutais, là, sur la formation. Je pense que, par la formation, le spectacle, tout est, j'entends des choses vraiment super intéressantes et tout. Maintenant, on peut pas critiquer la formation française. La formation française, elle prépare des joueurs qui ont besoin de continuer à être formés. Beaucoup, c'est très rare qu'ils arrivent tout de suite au top quand ils arrivent à l'étranger, mais c'est vrai que c'est une des meilleures formations. C'est pas parce qu'on a oublié un jour Griezmann, Platini à son époque, dans je sais pas quel club. Ça, c'est des histoires qu'il y a dans tous les championnats européens.
C'est vrai, bon, après, c'est un débat qui n'en finit pas.
On va enchaîner. C'est très intéressant.
On va faire un petit retour sur le week-end de Ligue 1. Hein. L'OM, qui dit peut-être adieu à la Ligue des Champions, lance très certainement aussi, lance l'OM et Lyon. Hein, on en parlait il y a à peu près 3-4 semaines. On parlait, je pense que c'est moi-même, je disais il y a à peu près 3-4 semaines, je disais Lyon peut-être à l'Europe, ou Lyon même peut-il rattraper l'OM. On me prenait un peu comme un fou, on me disait il y a 7 points, 8 points. Bah, regardez, maintenant il n'y a plus qu'un point et ça joue ça peut jouer en même pas une journée. Du coup, maintenant, est-ce que Lyon peut vraiment prétendre à l'Europe? Et l'OM a vraiment dit adieu pour vous à la Ligue des Champions. Voilà, on revient vraiment sur tous ces débats. En tout cas, on va commencer avec Stéphane. Bah, Stéphane, vas-y, dis-nous toi ce que t'en penses de ces résultats qu'on a pu avoir ce week-end en Ligue 1.
Ouais, moi je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Philippe, c'est de ce week-end, il y a déjà eu un gros brassage qui a été fait. On en sait déjà quand même beaucoup plus sur les luttes ou les groupes de lutte qu'il va y avoir. C'est vrai que moi, c'est pas que de ce week-end hein, que je suis en mea culpa totale. Moi, je voyais Lyon, hein, donc là, c'est hallucinant parce qu'effectivement, on me demande aujourd'hui, je pense que Lyon a des chances. Ça va quand même être très, très compliqué pour Lyon. Mais en tout cas, ça a été un week-end très intéressant qui a permis de se resituer. On a maintenant, je pense, les quatre normalement pour la Ligue des Champions. On a les quatre premiers. On a au moins deux derniers.
Et même ça, après, ça peut bouger encore. Hein. Ça peut bouger encore. Hein. Il reste quand même six journées.
Je pense que ça va être compliqué quand même de reprendre 5 points. Si j'ai pas le classement sous les yeux, mais je crois que Monaco.
Ils sont à 5 points.
Ils ont 5 points quand même sur l'équipe derrière, quoi. Donc, à mon avis, ça va quand même être très, très compliqué. C'est 8 points pour Monaco par rapport à Nice. Monaco qui est troisième, 8 points en 6 journées, je pense que c'est impossible. Et même 5 points entre Lille et Nice, ou 6 points entre Lille et Lens, je pense que ça ne bougera pas. Quoi, c'est mon avis. Je pense que les 4 premiers, on les a. Et après, on a Nice, Lens et Reims peut-être qui se battent pour les 5 et 6. Et après, on a Marseille, Rennes, Lyon qui vont se battre pour la 7e place. Quoi.
D'accord, merci d'après Stéphane. Okay. Et toi, Alexandre, dis-nous, c'est quelle affiche que t'as plus retenue de ce week-end en Ligue 1
Il y en a deux. La première, c'est Brest-Metz. J'ai bien aimé ce match. Et Miko Dadze, il confirme ce que je pensais de lui, à savoir un joueur qui peut aspirer à jouer un peu plus haut, je pense. dans les clubs de première zone comme Lyon justement, ou enfin qui sont censés être de première zone en tout cas. Et le match de Nantes contre Lyon, malheureusement il était à huis clos, mais au final Lyon qui renverse la situation. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp au bout du foot, et en gros, un moment, tu nous as posé une question, je crois que c'était hier, tu as dit est-ce que Lyon peut aspirer à la place européenne ?
C'est ça.
Moi, j'ai dit non, et j'ai changé d'avis, parce que j'ai vu le classement, et je me suis souvenu surtout que la 7e place est qualificative pour la Ligue Europa Conférence, et que Lyon affronte le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Donc en fait, Lyon, ils sont vraiment sur... c'est un peu un point en or pour Lyon, pour une place qualificative en fait. Même si leur calendrier il est relativement compliqué.
Est-ce que t'as vu le classement, le calendrier de Lyon quand même ?
J'ai vu le calendrier, mais s'ils perdent, par exemple, s'ils perdent contre Paris en finale de la Coupe de France.
Par la Coupe, on est bien d'accord. Lyon est le seul club aujourd'hui de tous les poursuivants qui est sûr et certain de jouer la Coupe d'Europe s'il termine 7e. S'ils se font battre. Mais quand même, ils peuvent terminer.
Mais c'est vrai que leur calendrier, il est compliqué, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'émission de Philippe, ils jouent contre Brest, ils jouent contre Lille, contre Lens, contre Paris. Ça va être compliqué, mais je pense qu'ils ont quand même un coup à jouer.
C'est surtout des finales. C'est des matchs à 6 points, comme on peut dire. Entre guillemets, demain, tu bats Lille, tu remontes très bien. Après, tu joues contre Brest aussi, tu remontes très bien. Et moi, je les vois bien faire. Moi, je les vois bien gagner face à Brest. Hein. Moi, honnêtement, moi, je les vois s'imposer face à... Je dis pas que ça va être facile ou quoi, mais je les vois bien s'imposer face à Brest. Et ça m'étonnerait pas qu'ils font un match nul à Lille. Non, ça m'étonnerait pas du tout.
Ça m'étonnerait. Qui batte Brest, non, mais qui fasse un match nul à Lille.
Mais parce qu'en fait, ils ont ce supplément d'âme que d'autres équipes n'ont pas forcément.
Ils ont vraiment tu les vois jouer, on n'a plus rien à perdre. Là, on joue pour jouer. Tout le monde nous enterrait en début de saison. Tout le monde disait qu'on jouerait en Ligue 2 avec Saint-Etienne. Maintenant, on est en finale de Coupe de France. Et en plus de ça, on est très proche des places européennes. On est en finale de Coupe de France. Franchement, moi, je pense qu'ils jouent vraiment sans pression là. Et ça pourrait être un atout pour ce dernier rush.
Non, mais t'as raison. Hein, mais est-ce que tu regardes un peu les matchs de Lyon?
Bien sûr,
oui, c'est positif. Bien sûr, c'est positif.
Mais c'est une équipe à réaction. Qu'est-ce qui compte? Le résultat. Ils finissent 3-1 face à Nantes, c'est ce qui compte. Ils perdent 1-0, ils réussissent à revenir avec le général Lacazette.
Bien sûr, 1-1, Lacazette,
et ensuite derrière, ils enterrinent. Même s'ils sont que dans la réaction, ça marche.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je dis simplement que moi, ce que je vois de Lyon, des derniers matchs de Lyon, que ça soit par exemple juste les deux derniers, hein, Valenciennes et Nantes, je sens pas une équipe qui est capable de battre Brest. Ça va être très chaud de faire un résultat à Lille, d'aller faire un résultat au Parc, de faire un résultat contre Lens. Je sens que ça va être très très compliqué. Alors un ou deux, oui, mais deux, trois ou quatre, je le sens pas trop.
Moi, je le sens bien en tout cas. Franchement, le PSG.
Incroyable que Nantes ne mène pas 2 ou 3-0.
Ils ont pas su tuer le match.
Le meilleur joueur du match est Anthony Lopez.
Ouais, mais ils n'ont pas su tuer le match. Et le PSG, on a pu voir, hein, si Clermont est allé arracher un point au Parc des Princes, pourquoi Lyon ne pourrait pas? Moi, je pense que Lyon pourrait, en sachant que connaissant Luis Enrique qui fera sûrement un turnover.
Ça dépend du turnover aussi. Oui. Parce qu'il y a turnover. Turnover contre Clermont, c'est du jamais vu.
Oui, on pourra avoir encore du jamais vu si on est qualifié en demi-finale. Et je pense qu'on sera qualifié en demi-finale. Du coup, je pense qu'il y aura encore. On est quand même à Montpellier,
Oui, titulaire.
Parce qu'on supporte, on supporte quand même les clubs français en Europe.
Mais je suis d'accord,
on supporte les clubs français en Europe, Abou.
D'un pays qui n'est pas un pays de foot.
Vraiment.
Demande à un supporter de la Juve s'il supporte l'Inter.
C'est d'habitude l'animateur qui est là, il dit pas on. C'est pour ça que j'étais surpris, excuse-moi.
Ah, d'accord, oui. Mais c'est bien pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui avec la défaite de Marseille. Mais on va passer au suivant. Lucas, toi, tu peux nous dire, Lucas, ce que tu as pensé de ces résultats. Quel match t'as plus retenu, du moins, ce week-end dans Ligue 1?
Sinon, ce que j'ai retenu, c'est Paris.
Tu vas bien t'entendre avec Stéphane. Vas-y, continue, excuse-moi.
Ce que j'ai retenu, c'est les jeunes. Moi, j'aime voir les jeunes jouer. Il y a Mayulu et Zagué qui ont n'est pas en Ligue 1. Faire du mal. Ça a été du tout. Mayulu a mis un très beau but, justement refusé parce qu'il y avait une. Voilà, ça me fait plaisir. Et je retiens aussi que, comme disait
Némir.
C'est la première fois qu'on voit un tel turnover au PSG. J'ai envie de... Je suis pas fan de Luis Enrique de base, vraiment pas fan. Je trouve qu'il a très bien son groupe. Là, c'est la première fois qu'on arrive en avril, on est qualifié partout. Il y a un vrai scandale. Le groupe est concerné. Il y a un vrai turnover, il n'y a pas de joueurs qui sont cramés. On n'a quasiment plus aucun blessé. Et encore une fois, on voit avec Clermont, c'est grâce à ce genre de gestion d'effectifs qu'on arrive à réussir à mon sens. Le bon travail de Luis Enrique.
Faut que ça se confirme. Merci, par une victoire mercredi soir. Mais là, on pourra dire que c'est bien.
Ouais, on verra. On y est de toute façon. Et Némir, bah toi, tu peux nous dire quel match t'as retenu ce week-end en Ligue 1?
Eh ben, moi, le match que j'ai retenu, c'est le match de l'OM, Marseille-Lille.
La fessée de Lille.
La fessée de Lille, exactement. 3-1, qui met fin vraiment à tous les espoirs d'Europe pour Marseille, à mon avis. Ça va être très difficile pour eux maintenant au classement. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Jonathan David, qui marque encore une fois. Franchement,
qui provoque le penalty, qui, ouais, vraiment.
Jonathan David, je pense que c'est la dernière saison qu'on le voit en Ligue 1, parce que ça fait.
Pas un scoop.
Non, j'ai pas de scoop, mais ça fait un moment qu'il est quand même sur les tablettes des plus grands clubs européens. Et s'il part pas cet été, je vois pas quand est-ce qu'il partira, quoi. Surtout qu'il y a plein de clubs, notamment en première ligue, qui recherchent un peu un avant-centre type, ouais, Jonathan David.
Si ce point-là, après, il peut rester. Là, ce... Oui, non. Non, franchement, moi,
pourquoi pas Paris, Chelsea, en vrai,
non,
Jonathan
franchement,
David.
Non, franchement, après, après, il y en a qui voient Lille battre Aston Villa, qui sont quatrième de première ligue. Du coup, pourquoi pas même rester à Lille, hein, dans ce sens-là. Du coup, et toi, Abou, quelle affiche t'as plus retenu alors, qu'il y a dans les gars. Ça va pas être Marseille, je pense.
Si.
Ah si, quand si. Même. Ah, bah vas-y.
J'ai pas regardé les matchs du tout.
Ah oui. C'est bizarre. Non, mais... À vous, dès que Marseille perd, il n'a jamais regardé le match. Alors, déjà, jamais, jamais. Si déjà. Vous remarquez bien, vous allez voir. Allez, vas-y.
Je suis un journaliste très occupé, excusez-moi. Excusez-moi.
Je confirme.
Vendredi chargé. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est la défaite de l'Olympique de Marseille, bien évidemment, contre Lille. Mais au-delà de cette défaite, moi, c'est ce que j'ai lu comme déclaration dans la presse derrière. Il y a un article de l'équipe qui est sorti le dimanche qui expliquait que les joueurs marseillais se plaignaient du manque d'intensité mis par Jean-Louis Gasset à l'entraînement. Alors les joueurs marseillais, les gars, ok, mais il y a un moment donné, vous aviez un coach. Et d'ailleurs, l'équipe le rappelle dans son article, Marcelino, on lui reprochait la même chose, manque d'intensité. Gennaro Gattuso, on lui reprochait son entêtement tactique, c'est les mots qui sont utilisés, son entêtement tactique. Et Jean-Louis Gasset, on lui reproche son manque d'intensité, encore une fois. Mais les mecs, à un moment donné, ce n'est pas eux qui jouent, c'est vous qui jouez au football. Si vous n'arrivez pas à jouer au football, arrêtez, faites autre chose, passez à un autre métier ou passez à un autre club si vous n'avez plus la motivation. Mais moi, c'est ce que je trouve aberrant. Quand le match que l'OM, parce que je ne l'ai pas regardé, mais je suis quand même allé la regarder un peu quand même. le match que l'OM pond contre le LOSC, mais c'est juste aberrant. C'est une honte à ce niveau-là. Et une équipe avec un tel niveau de jeu et le visage affiché par les joueurs qui sont censés être les cadre ne pourra pas battre Benfica. À l'OM, il n'y a que 3 ou 4 joueurs qui sortent du lot. Et moi, c'est ça, en fait, qui me terrifie. Non seulement, pourquoi c'est le match qui me marque? Parce que ça me terrifie pour eux en championnat de France, mais ça me terrifie pour eux en Coupe d'Europe, où, on le sait encore une fois, c'est important que la France fasse des bons résultats en Coupe d'Europe. Et moi, je suis terrifié pour les Marseillais et pour ce qui va leur arriver face à Benfica s'il n'y a pas un sursaut d'orgueil d'ici à jeudi.
Je suis totalement d'accord.
Merci
avec toi. Sur,
ça a le mérite d'être clair.
Toujours très objectif. Sur
je pense que Léo, on n'a pas eu la réaction de Léo, je pense, encore sur...
Non, moi, c'est aussi l'Olympique Lyonnais qui m'a marqué de par sa capacité à réagir quand il est mené. Parce que sur les 5 derniers matchs, quand on regarde les entrants, ils ont tous apporté par des buts, par des passes décisives. Fofana, Baldé, Cherki... parce que je pense que l'Olympique Lyonnais a une profondeur d'effectif plus impressionnante que l'OM, que Reims, a des meilleurs joueurs aussi intrinsèquement. Après, la saison de l'OL, elle va aussi se jouer en fonction de la saison de ses concurrents. La finale de Coupe de France, si Paris est qualifié en finale de Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont pas laisser un petit peu, est-ce qu'ils vont pas faire tourner, est-ce qu'ils vont pas lâcher du lest, peut-être. Après, comme ça a été rappelé tout à l'heure, les 4 prochaines journées de l'OL, c'est littéralement les 4 premiers du championnat. Tu as Brest, Paris, Lille, Monaco.
C'est les 4 premiers.
Lyon a battu Lille cette saison en Coupe de France. Lyon a battu Monaco à Monaco. Lyon s'est fait marcher dessus par le PSG en début de saison.
Comme tout le monde.
Comme beaucoup de monde. Et Lyon a eu du mal à Brest, a perdu et a eu du mal. mais sans être écrasé. Aujourd'hui, je pense que Lyon a son destin entre les mains, parce que pour moi, c'est la meilleure des équipes qui postulent à la 7e place. Et je pense que les prochaines semaines peuvent être spectaculaires en termes de jeu. Il y aura peut-être des défaites, il y aura peut-être des matchs nuls, peut-être des victoires, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de spectacles dans les matchs de Lyon. Parce qu'ils ont un effectif, et surtout un effectif offensif, qui a pratiquement pas d'égal d'équivalent en Ligue 1.
On ne sait pas trop si c'est le supporter ou le chroniqueur qui a parlé là, mais on sentait beaucoup d'indignation, en tout cas dans ce discours. Ibrahima, toi, est-ce que tu peux nous dire quel match tu as le plus retenu? Je pense que... Vas-y.
Non, moi j'ai regardé le match de Monaco face à Rennes, c'était hier après-midi. J'ai bien aimé la performance des Monégasques, c'était pas forcément le plus beau match de l'année, mais je trouve qu'ils sont assez costauds quand même, et le stade Rennais qui confirme que... on peut tout simplement pas compter sur eux, en fait. D'année en année, c'est toujours pareil. Ils finiront 9e ou 10e, je sais pas. Mais je pense que si cette équipe veut passer un cap, il y a quelque chose à changer. Parce que c'est pas possible de répéter la même saison sur 10 ans. Il faut le faire, quand même.
Moi, je trouve que c'est quand même choquant pour vraiment une équipe avec la qualité de joueurs qu'a le Stade Rennais d'être 8e de Ligue 1 aujourd'hui.
Non, mais justement, les joueurs sont très surcotés, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs surcotés au Stade Rennais. D'où les résultats.
Moi, je pense que c'est toujours mal pensé. Rafinha, qui est vendu au Barça. Une saison, une bonne saison. Il a vendu le même prix qu'il avait acheté à Lyon. Ils achètent qui? Il avait 21 ans. Ils ont acheté Jérémy Doku. Il a fait deux saisons. Il s'est beaucoup plus. Il a peu performé. Il est parti. Cette reine, pour moi, je parlais bon profil.
Ils avaient Kamavinga, ils ont...
C'est peut-être pas les bons
profils. Dembélé,
c'est la formation.
C'est de la formation, ça.
C'est de la formation. Quand ils prennent Doku, c'est de la post-formation. C'est pas totalement pareil.
Moi, j'ai un problème avec ces clubs qui font la post-formation et qui vendent des joueurs avant même qu'ils aient performé.
Il y en a beaucoup en Ligue 1.
Ouais. Souleymana,
parce qu'il y a des acheteurs aussi. Parce qu'il y a des acheteurs qui viennent aussi avec des... Parce qu'il faut dire la vérité.
C'est ce que j'allais dire. Oui, ils peuvent se permettre de ne pas les vendre.
Ah oui, bien sûr.
C'est la mentalité française qui prend le dessus.
Mais ils sont pas performants quand ils sont à Rennes.
Après, est-ce que les joueurs ont envie de rester? C'est quelque chose d'autre aussi.
Oui, Doku, c'était. Mais tu sais qu'il y a du potentiel quand même. Stéphane, tu peux nous dire, toi, ce que t'en penses de tout ça, de tout ce qui s'est dit un peu autour de la table?
Ouais, bah, moi, je suis. Personnellement, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Même tout à l'heure, tu disais pour Lyon, là, que c'était un discours de supporter. Mais moi, je trouve que c'est un discours tout à fait avisé. Parce qu'effectivement. Lyon, ils ont un effectif, un banc largement, bien sûr, il y a un effectif deux fois, trois fois meilleur que l'effectif de l'OM, bien sûr, un effectif mieux que Reims, que Lens, largement mieux que Lens, quoique plein d'équipes qui sont à la lutte là, dans un seul petit secteur, donc ce qui peut effectivement leur permettre de faire un pas. En fait, juste pour dire, je pensais à ça pour parler, l'OM, OM, OL, par exemple, 14 points d'écart, je crois, il y a après à la 14e journée ou à la 15e journée. La différence aujourd'hui, moi, j'ai sur notre site, on a fait un article, Paulo Longoria est-il le pire président de l'OM du 21e siècle? Je veux dire, ce qui a complètement foiré.
Jacques Henriero existe quand même.
Attendez, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Oui, Stéphane.
Regarde le recrutement, regarde simplement le mercato hivernal des deux clubs, quoi. Bon, c'est sûr qu'il y avait un budget à peu près de 50 millions pour l'OL, mais regarde la différence des joueurs qui sont arrivés et qui apportent, notamment Matic, c'est quand même pas le plus cher.
Benrahma aussi.
3 millions, ils l'ont pris à 3 millions.
D'acheter une Ferrari
c'est pas le plus cher. Est-ce que l'OM aurait pas pu penser à un joueur de ce profil, par exemple? Je sais pas. Donc moi, je pense que c'est de l'incompétence au niveau des dirigeants, et l'OM s'il n'y avait pas ce calendrier, même avec ce calendrier, je ne sais pas si Lyon terminera 7e, mais à mon avis, Lyon terminera devant l'OM.
Bah pour le coup, quand tu dis qu'il y a de l'incompétence, Lyon, je confonds les deux Olympiques, Marseille a pensé à Benrahma. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. D'ailleurs, tu es sûrement mieux informé que moi à ce sujet-là, sur le pourquoi ça ne s'est pas fait au final. Mais Lyon, Marseille, en tout cas, était en discussion avec Benrahma, et Benrahma avait même sa priorité pour l'Olympique de Marseille, et il ne voulait signer nulle part ailleurs qu'à Marseille, avant que finalement, il se rendre compte que ça ne pourra pas se faire avec Marseille parce qu'il y avait un problème de budget et que la Ligue de football professionnel, oui exactement, ne pouvait pas valider la DNCG ne pouvait pas valider le transfert à cause d'une histoire de salaire. Donc finalement, son choix s'est opté sur Lyon. Donc,
oui, non, mais d'accord, mais là c'est pareil que tout à l'heure, on peut en parler pendant une journée complète. Hein, quand ils ont acheté Vitinha 32 millions, ils avaient le budget, quoi. Donc c'est peut-être pour ça, parce qu'ils ont acheté il y a un an un joueur 32 millions, qu'aujourd'hui ils n'ont plus le budget pour acheter un joueur. Mais Benrahma, je ne sais pas combien c'était Benrahma, combien ça va lui leur coûter. Mais en tout cas, on ne sait pas Matic à 2 millions et demi ou 3 millions, quoi. Matic, il a certes 35 ans, certes on dit que 2 ans, c'est un peu de la folie de l'avoir fait signer 2 ans. N'empêche qu'il a transformé, l'équipe. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que la situation de l'OM aujourd'hui, elle est de l'incompétence totale des deux dernières années de Pablo Longoria, des quatre derniers recrutements. Dans les quatre derniers recrutements, dur, hein. Même pas sur une main les joueurs intéressants qui sont arrivés, et puis une situation financière qui leur amène, comme tu l'as dit toi-même là, à pas pouvoir là pour une fois qu'ils avaient peut-être. Dites-moi juste à quoi a servi Benatia, à part foutre le entre guillemets hein, le bordel avec Klos dans une interview à son copain Nasri. À quoi il a servi?
Je peux te répondre, même en tant que supporter de PSG, je trouve un peu dur avec Pablo Longoria. Longoria, quand même, il faut se rappeler l'état du club qu'il a récupéré.
C'est quelqu'un, Longoria.
Effectivement, il a du mal à faire, à passer dans la deuxième phase du projet. Il a fait du très bon à court terme. Là, il a du mal plus sur le moyen terme, le long terme. Mais certes, il a fait des erreurs cet été. Mais Longoria, l'effectif qu'il avait il y a 3 ans quand il est arrivé, l'effectif qu'il a maintenant, je veux dire, intrinsèquement, les joueurs de Marseille ne sont pas mauvais.
Mais il est pire, il y a 2 ans, saison 2021-2022, l'OM doit terminer deuxième, je crois, ou troisième de Ligue 1, peut-être troisième de Ligue 1 avec un certain effectif. Depuis 2022, il a dépensé 200 millions d'euros, où il a une balance négative de 100 millions, en tout cas, d'euros sur les deux mercato. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un OM qui va, je pense, peut-être même pas terminé dans la première partie du tableau. Donc pour moi, c'est en tout cas, effectivement, même s'il a fait quelque chose de bien pendant un an, mais c'est vrai, j'exagère un peu. Moi, ça c'est pas d'aujourd'hui que j'ai cette théorie-là. J'aimerais savoir ce qu'il a apporté.
C'est vraiment le côté fervent défenseur du PSG aussi, quand même, non?
Je pense que Marseille après 4 journées sont largement plus à blâmer.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
La saison a été gâchée par les supporters. Marcelino, problème ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un coach qui a prouvé, qui a fait des choses extraordinaires avec Valence.
Oui, non mais Bilbao, exactement.
C'est les supporters qui ont.
Dirigent l'OM. Donc c'est les supporters.
Mais quand ils agressent le coach.
Ça c'est un autre débat.
Ils ne dirigent peut-être pas l'OM, mais en tout cas.
Pas blâmer Longoria tout le temps.
S'il vous plaît, attendez. Peut-être qu'ils ne dirigent pas l'OM, mais en tout cas ils ont leur mot à dire et ça s'est fait ressentir, du moins sur Marcelino, je pense.
On vient te menacer, et ils n'ont pas leur mot à dire, ok, ils ne sont pas dans la gestion, ok, ce n'est pas les banquiers du club. Mais à un moment donné, moi, je vais le citer directement parce que moi, il m'agace depuis des années. Quand Rachid Zeroual, il fait la pluie le beau temps à Marseille, il n'y a pas de président à l'Olympique de Marseille. Le président, c'est Rachid Zeroual et les gens qui sont à la tête de l'OM font en fonction de ce que veut Rachid Zeroual. Et s'ils ne font pas comme veut Rachid Zeroual, ils se font menacer par des bandes de. Je n'ai même pas envie de dire le mot, mais une bande de. C'est un mot que j'aime pas utiliser. Des mafieux, des bandits qui viennent et qui ont leur place à l'OM. C'est pour ça d'ailleurs que l'OM sera peut-être un club qui sera jamais racheté, parce que ce club, il n'est pas dirigé ni par Franck McCourt ni par Pablo Longoria, mais en réalité, il est dirigé par ceux qui pensent que c'est leur club, c'est-à-dire Rachid Zeroual et toute la bande de pseudo-supporters du club qui prennent en étage ce club depuis maintenant quelques années. Donc on peut pas tirer à balles réelles comme ça sur Pablo Longoria. Le gars, il est là, il fait ce qu'il peut, malheureusement pour lui. Et à mon avis, moi, je suis persuadé qu'à la fin de la saison, il ira, il prendra un Doliprane, il ira voir un psychologue parce qu'il en a besoin, c'est sûr. Quand tu quittes ce club, t'es lessivé, t'en as marre, t'en peux plus. Florian Thauvin nous disait la même chose. Steve Mandanda, qui est un amoureux de l'OM, nous disait la même chose. Tous les passionnés de l'OM et qui sont passés par ce club nous disent la même chose. Quand tu sors de ce club, t'es lessivé. Il se passe tellement de choses en interne dont on n'a pas connaissance, que c'est juste invivable. C'est pas un club comme les autres, Marseille en France. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Merci Abou pour ce discours. Vraiment, là, ça se voit que ça sortait du cœur.
Passionné. Hein.
Voilà, ouais, très très passionné. Hein. Bon, Abou ne s'en cache plus, en tout cas, il nous l'a dit au moins, clairement. Il est supporter de Marseille. Maintenant,
il a bien raison. Il a bien raison.
Il a bien raison.
Je conclurai juste en disant que quand on voit je suis désolé, je ne vais pas ouvrir un débat, mais quand tu vois le tifo pour PSG, OM PSG, là, pour un humoriste qui va jouer tout le temps dans le pays, c'est une honte totale, quoi. C'est une honte totale.
Mais c'est ce que je te dis, Stéphane, c'est Rachid Zeroual qui gère le club. D'ailleurs, ouais, Rachid Zeroual, à la suite de ça, qu'est-ce qu'il va dire ? Il fait une publication, il fait une interview pour dire que ce n'est pas Pablo Longoria qui décide de ce que nous, on va mettre en tribune. Exactement. Alors que c'était le jour des 2 ans de la mort de Pape Diouf. Enfin, il y a un truc logique à faire, c'est de mettre une banderole pour Pape Diouf. Non, toi, tu décides de... Bah, c'est... En fait, on se rejoint finalement, mon ami. Ce club est géré par Rachid Zeroual.
Exactement, mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, ça me dégoûte et même aussi pire, comme je disais, j'accusais Longoria parce que moi, je suis très énervé après ceux qui tapent sur le dos de McCourt tout le temps. Lui, il a mis du pognon, 500 millions depuis qu'il est arrivé à l'OM, 500 millions dans le club. Il met le pognon, certes, on lui reproche de ne pas être là, je suis d'accord, il y a plein de reproches qu'on peut lui faire, mais au moins, il a mis le pognon. Et puis, je trouve que le pognon a été dilapidé, a été balancé par les fenêtres. Voilà, ça, c'est mon point.
Merci Stéphane. On va passer au sujet suivant parce que franchement, là, on arrive un peu à court. On va passer pour la semaine européenne qui va beaucoup faire parler. Hein. Du moins, le PSG face au FC Barcelone. Hein. On a pu voir un FC Barcelone qui troll pas mal sur les réseaux, hein, qui sont sûrs de eux aussi, hein, un peu beaucoup trop. Mais oui, les joueurs aussi.
Non, ça veut dire que vous comprenez pas la communication.
Est-ce que ça masque pas de la peur, tout ça ?
Non, mais non.
On verra bien. Mais en tout cas, du moins, pour ces quarts de finale, en tout cas, quels sont vos pronostics et, est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises pour ces quarts de finale ? On va commencer. Faudra vraiment qu'on accélère un peu plus. Du coup, je vais vous demander d'être assez rapide et clair dans vos propos. On va commencer avec Ibrahima, s'il te plaît. Ibrahima, vas-y.
Par rapport au PSG face au Barça.
Par rapport au PSG face au Barcelone, par rapport au Real Madrid, par rapport vraiment aux affiches de Ligue des Champions des 4 quarts de finale.
Paris-Barcelone, sincèrement, c'est un match qui est toujours assez compliqué à pronostiquer personnellement. Même si je vois le PSG se qualifier sur les deux phases aller-retour. Sur le match aller qui est au Parc des Princes, il me semble. Le retour à Barcelone, là, j'ai peut-être quelques
doutes. Pas au Camp Nou.
Oui, c'est pas au Camp Nou, mais ça reste à Barcelone quand même. Ça fait moins peur, certes, mais ça reste à Barcelone quand même.
Bon, le Camp Nou aussi, ça fait pas peur. Hein. T'es pas content, Tripi. Vas-y, tu peux continuer.
Par rapport à ce match-là, je suis assez partagé, mais je pense que le PSG va quand même s'imposer à domicile. Après, par rapport au match Real-Manchester City, il y a un fait qu'on n'a pas... dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que la Liga n'a pas... Ils n'ont pas disputé de match depuis une semaine, il me semble.
9 jours.
Depuis 9 jours. Ouais. Et Manchester City a joué la semaine dernière, un mardi, il me semble, et ils ont joué ce week-end encore. Donc peut-être que ça va jouer du côté de Manchester City, même si on sait qu'ils ont un effectif assez complet.
Il a fait beaucoup tourner, hein. beaucoup tourné.
Oui, voilà. j'ai vu ça, il a fait beaucoup tourner. Il s'est même plaint aussi du fait qu'il n'avait pas le même temps de repos que le Real Madrid, donc j'attends de voir. Mais pour ce match-là, si je peux pronostiquer comme ça, je dirais match nul quand même. Et tu penses que tout se jouera au match retour.
D'accord, toi tu veux pas trop te mouiller.
Non mais franchement, c'est compliqué.
C'est pas grave.
C'est deux équipes en forme, donc je... Comme ça, je pense que City va se qualifier quand même. Mais à l'aller, je vois le match nul quand même.
Ok, et du côté Arsenal-Bayern ?
Le dernier Arsenal-Bayern, j'en garde un très mauvais souvenir pour Arsenal. Ils ont perdu 10-2.
Oui, moi, c'est exactement ce que je disais avec toi la semaine dernière, mais en voyant les résultats dernièrement
du Bayern, franchement, moi, face à Heidenheim ce week-end,
il
y a de la place. Mais Arsenal ne m'a pas rassuré face à Porto. Je pense qu'en Ligue des Champions, il y a un problème. Donc, je ne sais pas. Et peut-être que le Bayern veut sauver sa saison en Ligue des Champions aussi. Au championnat, il y a 16 points d'écart avec Leverkusen.
Tourelle pourrait nous sortir un coup de maître, en tout cas.
Je pense que Tourelle pourrait nous sortir un coup de maître, comme tu nous le dis. Mais non, là, pour le coup, je pense que le Bayern va se qualifier. Ouais.
D'accord. Et du côté de Dortmund-Atlético ?
Ce ne sera pas le meilleur match à voir, déjà.
Ah, il a l'air de déprimer le match.
Moi, je pense qu'attention.
Non, l'Atlético, ça me fatigue. C'est pas beau à voir, mais sinon, comme ça...
Ça fait un moment que c'est mieux, déjà. Ils sont plus ouverts, les clignots, tout ça, c'est mieux.
Ouais, quand Memphis rentre, ça va, ça passe, mais sinon...
Memphis blessé, d'ailleurs.
Ah, il est blessé. Ouais. Mais sinon...
Qui ratera sûrement la double confrontation.
Ouais, je pense, je vois l'Atlético se qualifier et ils affronteront le PSG en demi-finale.
D'accord. Merci Ibrahima. On va enchaîner avec Léo. Alexandre qui me fait un petit sourire, mais ça sera pas toi, pas maintenant. On arrive, Alexandre, on y arrive. Vas-y, Léo.
Non, moi, c'est déjà pour faire concis, juste pour éclairer un petit peu tout ce qu'on a lu aujourd'hui sur la communication du Barça. Il suffit de la suivre un petit peu toutes les semaines pour voir que une photo d'un maillot devant un monument dans une ville autre que Barcelone, c'est quelque chose qui se fait toutes les semaines à Barcelone en tout cas.
Merci.
C'est une communication qu'ils ont adoptée depuis plusieurs mois. Voilà, donc quand je lis même chez RMC et tout ça,
c'est des gens qui ignorent tout en fait.
Mais ça se limite pas à ça.
Attendez, on va laisser.
Non, mais après, pour moi, le trash talk, ça fait partie du sport. Ah, oui. Un joueur qui va dire Gundogan, qui dit cette semaine dans Sport. Oui, je pense que si on contient leurs ailiers, ça va le faire. Enfin, on a nos chances et tout ça. Moi, je trouve pas ça... Déjà, je trouve même pas que ce soit du trash talk. C'est assez lucide, surtout au vu des dernières prestations parisiennes. Mais bon, c'est un autre débat. Ensuite, je pense que... je sais pas. Vraiment, je pense que c'est un match équilibré. On sous-estime un petit peu la capacité de Paris à se sublimer dans des coupes. On parle du Barça comme si c'était une équipe de D2. Je trouve qu'il y a quand même des effectifs qui sont complets. Ça va être un match agréable. Concernant City, Real, je pense que City va même marcher sur le Real. Je vois pas d'équipe capable d'aller chercher cette saison.
Pas sûr qu'il fasse une autre émission ici.
Retiens la date.
Tu dis ça à un supporter madrier.
Laisse-le terminer. Moi, ça me fait doucement rire. Moi, j'aime beaucoup. Hein, parce que c'est ce qu'on disait aussi il y a 2 ans. Non, moi, ça me fait doucement rire. Franchement, c'est mercredi. On va pas. Voilà, semaine prochaine, on aura le débat. Moi, je pense que semaine prochaine, même, ça sera clos parce que le Real va faire un très gros match dès le match aller. Et je pense que ceux qui disaient parce que moi, je vois Manchester City depuis le début de saison, c'est pas le Manchester City de l'année dernière. Hein. C'est un Manchester City gavé après un triplé et qui est là, qui revient. Et franchement, aucun club pourra faire le doublé, en tout cas là, maintenant, à partir du 21e siècle. Hein, aucun club pourra faire un doublé, voire un triplé, si ce n'est le Real Madrid. Du coup, je pense que Manchester City ne finira pas la Ligue des Champions. Après, ça, c'est mon avis personnel. Léo, je vais te laisser finir. C'est Abou qui m'a inclus un peu dans le truc, tu vois. Moi, je reste en retrait. Vas-y, Léo.
Après, on parlait du temps de récupération et tout ça, mais ça double tranchant aussi. Les joueurs, ils ont le rythme à City. Ils l'ont peut-être un petit peu moins au Real, mais du coup, ils sont plus frais. Je pense que ça jouera sur la double confrontation, oui. Après, concernant le Bayern, il faut faire attention à ne pas enterrer le Bayern. Ça reste le Bayern Munich avec des joueurs de qualité, des joueurs qui ont de l'expérience. Arsenal, c'est une grande équipe qui a un super jeu, mais qui est aussi à la lutte en Première Ligue. Je ne sais pas s'ils ne vont pas mettre l'accent sur la Première Ligue, justement. Ça va peut-être être plus important pour eux en cette fin de saison. Après, ça faisait 14 ans qu'ils n'étaient plus venus en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, ils vont avoir aussi à cœur de la jouer. Et je pense que concernant l'Atlético, ça va passer. Dortmund est mieux cette semaine. Bon, ce week-end, c'était pas terrible. Mais Sancho revient bien. À Dortmund, c'est toujours un déplacement compliqué. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose là-bas et comme l'Inter en 8e se faire sortir parce que le Honda Metropolitano, je pense que c'est une des ambiances les plus sous-cotées d'Europe dans un des stades énormes qui reste dans cette compétition. Donc ça va être intéressant au possible.
Et l'Allianz Arena ?
Merci Léo.
Le Honda Metropolitano, oui, mais l'Allianz Arena, non.
Beaucoup moins que le Honda Metropolitano.
Oula.
Abou, tu peux nous dire toi ce que tu penses de ces prochaines affiches ?
Bah déjà, Barcelone-PSG, moi je pense que ce sera un match pas déséquilibré, pas équilibré. Je vois un 55-45 en faveur des Parisiens quand même. Je pense que le PSG est légèrement au-dessus de ce FC Barcelone-là. Après, on a cette fâcheuse tendance en France à chaque fois, à l'arrivée d'un grand match, de sous-estimer un peu nos équipes ou d'y aller de manière un peu frileuse. C'est très français d'aller très frileusement à l'attaque et de jouer la carte de la modestie. Non, le PSG est au-dessus du FC Barcelone. Aujourd'hui, le PSG a un effectif au-dessus de celui du FC Barcelone. N'oublions pas, bah oui, le PSG a un effectif au-dessus de celui du FC Barcelone. Lewandowski de cette année, ce n'est pas celui de l'année dernière. Alors que le Kylian Mbappé de cette année, c'est celui de l'année dernière. Juste à ce niveau-là, déjà, si c'est une affaire réglée défensivement, je trouve que c'est une équipe quand même, le PSG, qui se solidifie assez bien. Et n'oublions pas que le FC Barcelone, au milieu, moi je pense que c'est là où il va se jouer ce match, ce sera la bataille du milieu. Ils ont pas mal de blessés. Quant à Bayern-Arsenal, moi je suis persuadé, mais sûr et certain que le Bayern va sortir Arsenal. Je ne sais pas comment ils vont faire, parce que pareil, c'est une équipe que je vois à la peine depuis quelques semaines. Je suis même étonné, semaine après semaine, je ne comprends pas comment cette équipe fait pour être aussi à la peine, avec pourtant des joueurs de qualité dans un championnat qui est le leur et qu'ils maîtrisent à la perfection depuis maintenant 10 ans. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
Je pense
que persuadé.
C'est psychologiquement,
c'est
moi je pense.
Hein. Aussi,
parce qu'ils gagnent 2-0, comment tu peux gagner 2-0 en même pas 30 secondes, tu te fais rattraper 2-2. Je pense que
il est brisé. Hein.
Ouais, je
le
pense aussi.
Il est brisé. Avec
ceux qui ont envie de partir, ceux qui restent, avec les cadres qui
les cadres
sont
historiques
la fin.
Du Bayern ont totalement lâché Tourelle depuis un moment déjà. Ouais,
Là, va falloir se solidifier. Et moi, je pense que ça va sortir Arsenal. Et Arsenal, pour moi, ça fait partie du quatuor d'Europe. C'est quatre équipes, moi, qui me font très rire en Europe. C'est Arsenal, Arsenal, Dortmund, Naples. Arsenal, Dortmund, Naples et Marseille. Quatre clubs. Tu mets beaucoup d'espoir en ces quatre clubs. À chaque fois, ils finissent par te décevoir, sauf Naples, qui a remporté le championnat la saison dernière. Sinon,
comme tu as dit, en Europe.
Ouais, mais les quatre clubs, c'est toujours la même chose. Donc, Arsenal, pour moi, ça va pas faire long feu et ça va très, très, très vite sortir. Atlético Dortmund, je suis comme Ibrahima, c'est pas un match qui me hype plus que ça, qui me chauffe plus que ça. Après, contrairement à lui, moi, je trouve que l'Atlético, quand même, cette année, ça produit un beau jeu. On a un Antoine Griezmann en super forme. Donc, je pense que c'est une équipe qui va sortir le Borussia Dortmund. Après, attention quand même à Dortmund, qui a des cartes à faire valoir, et un Jadon Sancho qui, depuis qu'il a quitté Manchester United, revient assez bien. Et le quatrième match, le J4, là, non, Real Manchester City. Alors là, c'est pareil que pour Bayern. Arsenal, tout le monde est persuadé que le Real va se faire écraser. Moi, je pense qu'ils vont tuer Manchester City, qu'ils vont en faire qu'une bouchée de pain, que ça va très très bien se passer pour les Madrilènes. Là, c'est la belle en plus entre les deux équipes. Hein,
non, parce que en tout, si tu comptes historiquement parlant, ils sont passés trois fois. Mais là, le Real et deux Manchester City.
Bah là, sur les trois dernières saisons, mais moi, je vois en fait le Real faire le travail. Je trouve que le Real, c'est une équipe très équilibrée, très intelligente. N'oublions pas qui est le coach, un coach très expérimenté. Défensivement, ça va être très solide. Ferland Mendy, autant offensivement ça apporte pas, autant défensivement c'est très réfléchi. À côté de Rudiger, pour moi, Haaland il va rien voir et il va rien comprendre face à Rudiger. À côté, tu peux mettre Tchouaméni qui est très très bon en défense, sinon tu peux mettre Nacho qui est la carte assurance touriste, Carvajal qui revient bien, le milieu de terrain on le connaît déjà, l'attaque pareil, Vinicius qui fait une très bonne saison, Rodrigo qui peut te sortir quelque chose de je ne sais où,
Brahim Diaz qui est en forme aussi,
Franchement, je suis pas inquiet pour le Real Madrid et Manchester City. Oui, très belle équipe, très bel effectif avec de très très beaux joueurs. Mais déjà là, on le voit.
Kyle Walker qui sera pas là sur la double confrontation, qui joue sur Vinicius parce qu'on voit que il le tenait bien en laisse durant les confrontations.
Et on
qui n'est pas là du coup.
Haaland qui est aussi moins performant depuis maintenant quelques matchs, qui a eu un peu de mal à revenir de sa dernière blessure et qui cette saison a connu pas mal de pépins physiques contrairement à la saison dernière. Donc je pense que pareil. Pour moi, c'est comme le PSG Barcelone, c'est 55-45, mais là, c'est en faveur du Real Madrid. Et je pense que les Madrilènes vont se qualifier aisément face à cette équipe des Blues.
Merci Abou. Stéphane, je te sens derrière ton téléphone, prêt à bondir.
Non, faut faire vite. Donc, moi, effectivement, je dis Barcelone-PSG, c'est pour moi du 50-50 ou 50,05 pour le PSG et puis 49,95 pour Barcelone.
Trop modeste, arrondi s'il te plaît, Stéphane.
Real Madrid demande City, alors là je partage l'avis de Léo, je vois dans le pire des cas un match nul de Manchester City demain à Madrid.
Tu dis ça vraiment, Stéphane, je suis sûr que tu dis... Excuse-moi de te couper, mais Stéphane, tu dis ça parce que tu détestes le Real Madrid, que plutôt en termes de... Tu te dis vraiment le Real Madrid, c'est les champions, c'est vraiment les rois de cette Champions et qu'ils ne peuvent pas se faire éliminer aussi facilement, aussi aisément.
Moi, j'ai fait des études, des tout et tout. Je veux dire, par exemple, je suis désolé, maintenant vous allez me dire le contraire. Moi, je compare les deux milieux de terrain, les effectifs milieu de terrain, genre de couloir, je sais pas, ça dépend comment tu joues, 4-4-2, 4-3-3 et tout. Là, il n'y a pas photo, quoi. Tu peux pas, même si Kroos, il fait une belle truc, même Tchouaméni, qui est, en tout cas, on l'a vu avec l'équipe de France, qui est loin, en tout cas au milieu, il va peut-être jouer derrière, qui est loin d'être au top. Kamavinga, c'est pas non plus. Michel Platini.
Franchement, Stéphane, tu fais.
Par rapport à Foden, à Bernardo Silva, par rapport à De Bruyne et tout. Pour moi, il n'y a absolument pas photo. Maintenant, en football, tout peut arriver. Je serais hyper surpris que Manchester perde demain à Madrid. Madrid, ils ont effectivement Là, vas-y, vous allez pouvoir rigoler. Ils ont effectivement un petit plus avec l'arbitrage contre les.
Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. 100% d'accord.
C'est un Barcelonais qui dit ça.
Ils ne devraient peut-être même pas être en quart de finale.
Maintenant. Bah oui, bah oui.
Mais bon, on l'a vu il y a 2 ans, ils ont eu une faute de Benzema sur Donnarumma qui leur a permis de revenir dans le match.
Non, toi, ça se voit que c'est des cicatrices de très longtemps. Toi, tu vas nous sortir encore des trucs de très loin. Ça se voit que t'as mal quand tu parles du Real. Ça se voit. Faut que tu sortes le calepin et tu sors tout.
Ils ont eu beaucoup, beaucoup de réussite jusqu'en finale, où je ne pense pas qu'en finale, ils sont supérieurs à Liverpool. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de réussite. Peut-être qu'ils vont encore avoir beaucoup de réussite, à mon avis, contre City, ça passera pas. Quand je regarde l'effectif de City, j'arrive pas à me dire que ça. De Bruyne, quand tu
De Bruyne, dis, De Bruyne, t'as De Bruyne, t'as Bruyne t'as tu me perturbes.
À juste titre que City, c'est plus ça, mais c'est quand il était blessé ou quand il revenait. Faut savoir que là, De Bruyne, je pense qu'il est revenu au pic de sa forme, quoi, au carrément meilleur de sa forme, De Bruyne. Il faut effectivement, ça, on en parlait aussi tous les deux, qu'il faut effectivement que Haaland il sorte un peu. De sa torpeur dans un grand match qui fasse un résultat. Foden, c'est exceptionnel, quoi. C'est un des 5 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui.
Non, Stéphane, franchement, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais là quand même. Et je suis aussi fan de Foden. Je suis fan de Foden, mais tu peux pas me classer Foden dans les 5 meilleurs joueurs.
C'est même pas le meilleur joueur de son équipe.
Non, s'il te plaît.
En tout cas, il n'est pas à la cheville de Bellingham, par exemple. Il est peut-être un peu derrière Bellingham encore, mais il n'est pas à la cheville, quoi. Il fait des trucs. J'ai regardé tous les 5-6 derniers matchs de City. Quand il joue, en tout cas, il fait des trucs exceptionnels, quoi.
Je dis pas le contraire, mais franchement, moi, dans les 5 meilleurs du monde.
La défense. Real Madrid a sans doute une meilleure défense que les Anglais.
L'expérimenté. Ça compte énormément, et tu verras.
Ouais, ouais. C'est ce qu'il faut faire. Après, sinon, pour les autres, alors Dortmund, je pense qu'ils perdent. Pas s'ils jouent demain ou mercredi, je pense qu'ils perdent les deux matchs.
Alors, toi, tu te prends pas la tête, hein, direct. Okay.
Ah non, mais là, Dortmund, je ne les sens pas du tout. C'est de loin l'équipe la plus faible de tout, des 8 quarts de finalistes, quoi. Et puis Arsenal-Bayern, effectivement, là, on va voir le poids de la culture, le poids de l'expérience, le poids de l'institution, des clubs et tout. Et c'est pour ça que je pense que le Bayern va passer, quoi. L'Arsenal, ils ont déjà, ils font penser un peu au PSG, au mauvais PSG. Des mauvais en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il y a un son qui a un peu un plafond de verre, qu'ils ont les jambes qui tremblent. C'est quand on voit le match contre Porto, on peut pas imaginer une seule seconde qui passe. Maintenant, peut-être qu'ils vont se lâcher, qu'ils vont arriver à se lâcher parce qu'ils n'auront rien à perdre. En tout cas, Bayern, Atlético, City et PSG de justesse contre le Barça.
Merci Stéphane.
Selon moi.
Merci. D'accord. Oui, bien sûr. Merci Stéphane en tout cas pour ces pronostics. On va poursuivre avec Némir. Némir, toi, qu'est-ce que t'en penses alors du FC Barcelone face au PSG et des autres matchs de ces belles affiches en Ligue des Champions cette semaine?
Je vais prendre le contre-pied de tout le monde. Je vais commencer par Atlético Dortmund. Moi, je pense que s'il y a une surprise parmi toutes ces doubles confrontations, ce sera dans Atlético Dortmund. Pourquoi? Parce que l'Atlético reçoit au match aller. Donc tout l'argumentaire du Wanda Metropolitano, bon, ce sera que pour le match aller. Et le match retour, ce sera au Signal Iduna Park. Moi, je pense que ces deux équipes... bon, l'Atlético est très fort. Je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'Atlético. Mais l'Atlético, c'est une équipe qui est historiquement connue pour être forte contre les fortes et faible contre les faibles. S'il y a une chose que je vois bien faire l'Atlético, c'est sortir contre Dortmund. On rappelle que la Ligue des Champions Covid, l'Atlético avait sorti Liverpool, tenant du titre, pour ensuite sortir contre Leipzig. Là, cette saison, ils sortent l'Inter. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils sortent contre Dortmund. Donc, s'il y a une pièce d'outsider ou de surprise à mettre, je la mettrai sur Dortmund. Après, pour parler du PSG et du Barça, globalement, je suis d'accord avec ce qui a été dit autour du tableau, autour du plateau. 55-45, je dirais même peut-être plus. Allez, 60-40 pour Paris, parce que des blessures au milieu de terrain, et enfin, pour moi, c'est Firmin Lopez qui va être titulaire... après-demain soir, et je trouve que ça c'est pas à la hauteur tout simplement d'un match d'un quart de finale de Ligue des Champions. Donc je vois le PSG s'imposer notamment au Parc, et puis après à Mandjouk, bon, seul l'avenir nous dira, mais je vois quand même une qualification du PSG. pour le match entre le Real et Manchester City, là, c'est vraiment, je pense, la rencontre sur laquelle on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment le match le plus serré de ces quarts de finale. Je pense qu'il y a quand même une notion de calcul qui rentre en compte quand on parle de City, qui n'est pas valable pour le Real, parce que le Real, en fait, ils sont premiers de leur championnat, ils sont quasiment assurés de gagner la Liga, ils sont à 8 points, il me semble, alors que City est... C'est le même argument que je vais utiliser pour Arsenal. Ils sont toujours en course pour la Première Ligue. Après, ça dépend, est-ce que c'est leur priorité ou non. Mais ils sont toujours en course pour la Première Ligue. Et quand, au moment de ménager ses efforts, en fait, le Real, ils vont savoir que match de Ligue des Champions, ils vont jouer pour battre Manchester City. Alors que Manchester City, ils ont peut-être cette dimension de on a un match le week-end prochain, un match important en Première Ligue, etc. C'est pour ça que moi, en plus, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que c'est toi qui l'as dit. Sur le fait que Manchester City est gavé, ils sortent d'une saison où ils ont tout gagné. Pour moi, c'est pas possible qu'ils le refassent une deuxième fois, parce que ça, il y a que le Real qui le fait, en fait. Et puis, ouais, vraiment, le poids de l'expérience fait que je penche vers le Real. Pour Arsenal-Bayern, c'est pareil. Le Bayern, tout le monde dit ce qu'il... Je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit, très faible cette saison, on n'a jamais vu Bayern comme ça, etc. Mais le Bayern, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à jouer. Ils n'ont plus rien à jouer, à part la Ligue des Champions. Alors qu'Arsenal, c'est tout l'inverse. Arsenal, ils jouent la Première Ligue, ils sont revanchards en plus l'année dernière, ils l'ont perdu à pas grand-chose. À mon avis, la priorité des Gunners, c'est la Première Ligue. Quand ils vont décider, par exemple, un joueur qui est blessé, est-ce qu'on le fait jouer en Ligue Champion, est-ce qu'on le fait jouer en Première Ligue, ils vont le garder pour la Première Ligue. Et je pense que le Bayern, même blessé et même en énorme méforme, va quand même sortir une surprise de son chapeau et éliminer Arsenal qui manque cruellement d'expérience en Ligue des Champions, vraiment un effectif très très jeune et pour qui la majorité c'est leur première campagne de Ligue des Champions. Donc voilà, il reste, c'est tout. J'ai fait tous les matchs.
T'as fait le tour.
Et donc ouais, voilà, je vois Real, PSG, Paris, Dortmund. Allez, je mets la pièce sur Dortmund et le Bayern. Voilà.
Merci beaucoup Némir, franchement j'ai apprécié ton discours, j'ai vraiment apprécié. J'espère qu'on te verra la semaine prochaine.
Léo, pour toi ça va.
Et on va poursuivre avec la bête noire un peu de ce plateau. Non, je rigole, Alexandre, comment? Vas-y Alexandre, dis-nous, toi, alors, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai
faire... remonté ses manches, c'est chaud.
Non, je vais faire court parce qu'il reste pas beaucoup de temps malheureusement. Mais je commençais comme Némir par Atlético Dortmund. Et attention, l'Atlético de Madrid, faut pas croire que c'est monstrueux non plus, parce que je regarde beaucoup de matchs de l'Atlético et sans Griezmann. Bon là, en l'occurrence, il y a Griezmann, mais sans Griezmann, c'est vraiment très très faible, pour ne pas dire autre chose. Donc, ils ont un gros problème d'attaque parce que il y en a trois, c'est Griezmann, Memphis et Morata. Et Morata, bon, c'est très compliqué. Memphis sera blessé et Correa, c'est compliqué aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu comme Némir. Je mettrai une petite pièce sur Dortmund parce que Dortmund revient vraiment pas mal. Ensuite, Real City. Alors, le Real Madrid, je pense qu'ils vont se qualifier. Même si, bon. Ouais, non, parce qu'il faut faire preuve d'objectivité et il se trouve que le Real a toujours ce supplément d'âme dans les grands matchs. En plus, là, ça va se jouer au nouveau Santiago Bernabéu avec une sorte de nouvelle génération portée par Bellingham, etc. Sans oublier toujours l'expérience des anciens avec Kroos, Rudiger, Modric, Courtois aussi. Donc je pense, et Alaba, etc. Ah non, Alaba est toujours blessé, il me semble.
Là, ouais. Courtois aussi.
Courtois aussi,
blessé,
hein. Courtois aussi, pardon, excusez-moi.
Il le remplace si bien, c'est pour ça que tu peux dire Courtois.
Mais je pense que, comme tu as dit aussi, Elhadj, c'est que Manchester City, depuis le début de la saison, c'est pas le Manchester City de l'année dernière. Il faut bien le rappeler. Donc, à mon grand regret, je pense que le Real Madrid se qualifiera. Ensuite, c'était Arsenal-Bayern. Je pense que le Bayern Munich va se qualifier aussi. Je suis un peu comme Abou. Je pense que le Real a le poids de l'histoire. Et ils vont se qualifier. Ça va être difficile, mais ils vont se qualifier. Surtout qu'Arsenal est passé au tir au but face à Porto au dernier tour. Et ils sont encore sur tous les tableaux Arsenal. Donc voilà, ils vont plus se concentrer sur la Première Ligue à mon goût, parce que la Première Ligue c'est très important pour les Anglais. Donc je pense que le Bayern Munich va se qualifier. Et on arrive enfin au fameux match Paris-Saint-Germain FC Barcelone. Je vous ferai un coucou de Barcelone parce que je serai au retour. Oh. Et oui, je serai à Montjuïc avec grand plaisir.
Grand stade,
oui, pas de souci. Tu peux vanner le stade comme tu veux, mais il fait la taille du Parc des Princes. Donc,
il est même plus grand.
Elle est bonne,
ça. Oui, enfin bref. Fermín López attention, ne sous-estimez surtout pas ce joueur parce que regardez sa saison et regardez ses statistiques, il a beaucoup plus marqué qu'Ousmane Dembélé. Ensuite,
ce qui est pas compliqué.
Ça tombe bien, Ousmane Dembélé, c'est un milieu de terrain aussi, on peut comparer.
Bah oui, mais là tu viens de te tirer une balle dans le pied parce qu'il joue ailier, Ousmane Dembélé, il est censé plus marquer.
Oui, mais
Frenkie de Jong devrait
on va revoir tout ça mercredi de près.
Non, attention, Frenkie de Jong devrait vraisemblablement être titulaire, Pedri sera est incertain mais il sera sur le banc en tout cas, il y a juste Gavi qui est blessé, qui est out à 100%. Donc au milieu de terrain, il devrait y avoir normalement, si tout se passe bien, Gundogan, Frenkie de Jong et soit Sergio Roberto, soit Fermín López. Donc c'est pas mal du tout.
Tu vois Frenkie, toi ? Tu vois De Jong, titulaire ?
Oui, il devrait vraisemblablement.
Il a fini le match d'entraînement et ils ont dit qu'il prendrait une décision, mais que ça devrait aller.
Non,
je sais
pas si c'est la meilleure nouvelle d'avoir Frenkie De Jong.
Non, par contre,
Christensen plutôt, mais...
on parle de bataille du milieu, mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que Zaïre Emery sera certainement à droite.
Parce que je suis pas d'accord du tout.
Moukiele est blessé et forfait.
Je suis pas d'accord du tout.
Et. Je vois pas qui mettrait à droite.
Ouais, je vois pas qui mettrait.
Oui, Marquinhos va jouer à droite.
Ouh là là.
Zaïre Emery va jouer au milieu de terrain.
Alors, Joao Félix se fera un malin plaisir.
Moi, je pense
qu'il va faire comme contre Nice en Coupe de France.
Excusez-moi, pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Je mets ma main en feu.
Moi, j'aurais aimé que Joao Félix soit titulaire, mais je pense que ce sera Rafinha, Yamal et Lewandowski. Koubarsi Araujo derrière. À droite, ce sera Koundé. Et puis à gauche, Cancelo. Et dans les buts, Ter Stegen. Mais je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que Paris part toujours favori, parce que j'ai pas changé de discours depuis 2, 3, 4 semaines. Paris part favori parce que Paris a beaucoup plus de certitudes. Le FC Barcelone, ça fait 3 ans qu'ils sont pas allés en quart de finale de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était contre le Paris Saint-Germain, justement. Donc, je vais pas retourner ma veste, je vais pas changer de discours. Je pense que Paris reste favori. Après, attention, faut faire preuve d'humilité. Ne croyez pas que c'est gagné pour le Paris Saint-Germain. Donc moi je mettrais toujours un petit 55-45 pour Paris. Voilà.
Ça marche, merci Alexandre. On va finir avec Lucas. Vas-y Lucas.
C'est aussi par Dortmund contre l'Atlético. Pour moi Dortmund est quasiment cette année pour les derby quelque chose. Aussi ils ont super mieux en Ligue des Champions. On voit le niveau d'Atlético, on voit justement le niveau tactique. Et rien que ça pour moi, ce ne sera pas flamboyant. Bayern, un peu moins optimiste pour le Bayern. Effectivement, pour moi, le Bayern est favori. Pour moi, Arsenal a une vraie peine de tir. Je mets un peu au défi Arteta et les Gunners de faire mieux. Pour moi, quand tu vois ce qu'ils montrent sur le terrain début de l'année, en vrai, depuis septembre, il n'y a pas photo. Après, on sait que le poids historique, c'est la Ligue des Champions, il y a plein de paramètres à prendre. Je pense qu'Arsenal ne sera pas favori, ils ont une vraie coup à jouer. Bien s'imposer chez eux. Match Real contre City. Moi je vois City se qualifier sur l'ensemble des deux matchs. Pas faire un résultat au match du Real va gagner. L'ensemble des deux matchs. Le Real pour moi il leur manque un vrai neuf. Moi ça va. On l'a pas trop vu cette saison, mais les matchs où ça va commencer à compter. Avec au-dessus du lot devant. Moi ça va amener leur défaite. En tout cas, pas du tout le Real à l'époque. Et enfin, Barça-PSG. Moi, Paris doit gagner. Vraiment. Paris doit gagner. Je vois une victoire vraiment très sérieuse. Je ne pense pas que Paris sera flamboyant dans le jeu. Avec sérieux, ils doivent battre Barcelone. Un peu inquiet par rapport à la taille du milieu. Moi, je trouve que Enrique a l'air de plutôt bien aimer Zaïre Emery. Pas servi du tout. Après ses blessures, sa réforme, etc. Pour moi, malheureusement, Enrique. Parfois, est difficile à suivre. Pas mettre Zaïre Emery arrière droit. Je pense aussi qu'on a
Ougarté ne commencera pas pour toi.
Je crois pas.
Non.
D'accord.
Il est plus dans les plans. Non. Il a joué contre Clermont. Mais il rentre à 15 minutes.
Et Kanginli titulaire.
Ouais. Kanginli titulaire en attaque, pas au milieu de terrain.
Je pense qu'il va mettre sensiblement.
Barcola, je pense pas qu'il va débuter Barcola.
Il va sensiblement mettre
donc
le même
donc, il
n'y
aurait que deux personnes
Nice.
Au milieu de terrain si je vous suis.
Non.
Non, trois.
Dans sa théorie, c'est Zaïre Emery en latéral droit. Moi, pour moi, ce sera Marquinhos, donc à ce moment-là, Zaïre Emery remonte.
Mais pour moi, de toute façon, l'attaque, ce sera Dembélé à gauche, Gonçalo Ramos en pointe et Mbappé à.
Mais on est vraiment sûr que Moukele, il est
blessé. Ouais, c'est officiel.
Son cérébral, c'est officiel.
Ah ouais,
parce que commotion, il est...
parce que contre Clermont, il insistait pour pouvoir rentrer sur le terrain.
Oui, oui. Bon, de toute façon, même s'il avait été là, il l'aurait pas forcément mis.
Exactement. S'il avait été là, il aurait pas joué parce que Enrique.
C'est pour ça qu'il l'avait mis dans le turnover, je pense.
Et du coup, la défense parisienne, c'est quoi?
Non, on sait pas vraiment. On va pas s'éterniser dessus. Excuse-moi, on n'a pas envie de te donner de scoop non plus pour que tu les répètes à tes chers amis. Du coup, Lucas, tu vas finir. Vas-y, si t'as pas fini, je t'en prie. Du coup, on va juste pas s'éterniser sur la composition parce qu'on va pas savoir vraiment c'est quoi.
Paris doit passer. Un moment où Paris doit montrer le club qu'il aspire à devenir, c'est que Barcelone avec la remontada. C'est toujours particulier d'affronter Barcelone. Quand Paris doit passer, il n'y a pas d'excuse.
Merci Lucas. On va enchaîner hein, parce qu'on oublie, on va pas oublier ce grand Olympique de Marseille hein, qui vont jouer ce jeudi face au Benfica et Lille aussi qui vont jouer face à Aston Villa. On va enchaîner avec un 30 secondes chrono. On va enchaîner avec un 30 secondes chrono pour avoir les avis de tout le monde. Et du coup, voilà, en 30 secondes, voilà, ça sera vraiment l'exercice du jour. En 30 secondes, faudra que vous me donniez votre avis sur l'OM et sur Lille, sur les deux confrontations. On va commencer avec Léo. C'est parti.
Alors je pense que Lille, bien que ce soit une équipe très appréciable à regarder jouer, qui fait des résultats, je pense que Aston Villa c'est quand même une très bonne équipe de Première Ligue. C'est une surprise qui au fil de la saison n'en est d'ailleurs plus vraiment une. Je pense que Lille peut quand même faire un résultat à domicile, mais qu'à Villa Park ça risque d'être compliqué. Quant à l'OM... je veux pas être trop pessimiste, mais le Benfica d'il y a quelques semaines peut-être aurait été prenable. Là, ils viennent de perdre contre le Sporting, mais ce sera un petit peu plus compliqué.
Merci, Léo. On va enchaîner avec Lucas. C'est parti.
Moi, pour ma part, pas du tout. Benfica sont tapés par contre. Perdu. Moi, Benfica. C'était le dernier. Voilà les remplacer. Marseille. Oui, c'est maintenant aussi. Je pense qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Plus petite pour Lille, qui est un effectif sympathique, avec gros vagues, un peu. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça va être très solide. Je pense que c'est la meilleure équipe pour en Ligue Europa Conférence. Pas compliqué.
Merci, Lucas. Alexandre ?
Alors, on n'a pas oublié Stéphane, ce qu'il a dit il y a deux semaines. Lille ne se qualifiera pas. Selon moi, je pense qu'Aston Villa va se qualifier sans problème, surtout au Villa Park. Et je pense que ce sera une large victoire. Et pour l'OM, malheureusement, je ne vais vraiment pas être optimiste pour nos clubs français, mais je ne vois pas du tout une qualification de l'OM, parce que Benfica a cette culture des Coupes d'Europe, et les clubs portugais en général, on a toujours du mal contre eux. Et donc, voilà, je vois une double déqualification des clubs français. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà.
En tout cas, on a compris. Merci Alexandre. On va enchaîner avec Stéphane.
Oui, bah moi, je vais aller vite aussi. Bah, je ne vais pas changer ce que j'ai dit. Moi, ma petite pièce, moi, c'est sur la qualification de Lille. Je pense que Lille est tout à fait capable de battre, d'éliminer Aston Villa sur les deux matchs. On va voir déjà ce qui va se passer à l'aller. Quant à l'OM, effectivement, ils vont être en très, très grosse. J'ai peur d'un 3-0 pour Benfica. me permettre à écrire, envisager, à rêver, à raconter tout ce qu'on veut pendant une semaine, que pour une remontada.
L'article est déjà écrit.
La défense de l'OM, c'est quand même inquiétant. C'est quand même très, très inquiétant. C'est quand même beaucoup de joueurs qu'on... qui n'ont pas leur place en Ligue 1, hein, qui jouent en défense à l'OM.
Ça marche, merci Stéphane. On va enchaîner avec Ibrahima.
Moi, personnellement, concernant Lille, je pense que, bizarrement, je vois Lille se qualifier face à Aston Villa. Je n'ai pas été convaincu des dernières performances d'Aston Villa, notamment ce week-end où ils se font remonter au score face à Brentford. Donc, je vois Lille se qualifier. Maintenant, pour revenir sur Marseille, face à Benfica, ça va être... Benfica n'est pas imprenable, mais je pense qu'ils vont quand même éliminer Marseille. Parce que Marseille, c'est surtout défensivement, il y a certains joueurs, comme l'a dit Stéphane, qui sont capitaines aujourd'hui à Marseille, mais qui ne devraient pas l'être. Donc je pense que Benfica devrait se qualifier assez aisément.
Merci Ibrahima. Némir ?
Eh bien moi, je vais dire complètement l'opposé d'Ibrahima. Je pense que Lille a... peut-être 0,05% de chances de passer contre Aston Villa. Pour moi, la Ligue 1 et la Première Ligue, c'est pas du tout même calibre. Tu peux mettre n'importe quelle équipe de Première Ligue, hormis les 3 derniers, 4 derniers, ils battent Lille. Et pour Marseille, je pense que ça va être compliqué, vu que le match aller, c'est surtout en fait, au Portugal. Je vois quand même, malheureusement, l'OM sortir.
Merci, Némir. Abou.
Moi, je suis français, fervent supporter de la France, un amoureux de la France, un amoureux du drapeau tricolore, un amoureux du coq, un amoureux du bleu, blanc, rouge. Donc, je vois une qualification de nos deux clubs, que ce soit Lille face à Aston Villa ou Marseille face à Benfica. Je place énormément d'espoir en ces deux clubs-là. Je leur souhaite de se qualifier. Je pense qu'ils ont les outils pour le faire. Et encore une fois, il faut que les Français, on arrête d'être frileux, qu'on arrête d'aller au combat de manière frileuse. Ça va le faire pour nos deux clubs. Les deux vont se qualifier. Malheureusement, le perdant de cette semaine européenne, ce sera bien évidemment le Paris Saint-Germain.
Tu me passeras tes lunettes, hein, parce que j'aimerais bien voir ce que tu vois, en fait.
Ce que je vois depuis le début, on va juste reprendre Stéphane...
Très rapidement.
Stéphane, l'OM sortira pas de sa phase de poule. Il est sorti. Stéphane, l'OM sortira pas Villarreal. On les a sortis. Avec Stéphane, en fait, Stéphane, qu'il continue
comme ça. C'est quand même aller au bout. Reprends les podcasts, j'ai toujours... Abou, il peut témoigner, parce qu'en plus, je pense qu'ils me l'ont envoyé par texto, même Abou. Et qu'est-ce que tu m'as envoyé, Abou? Est-ce que l'OM va passer contre Villarreal?
Oui, c'est vrai que Villarreal, non. C'est vrai, ça doit être le match d'avant, alors. Je retire Stéphane.
Ah ouais, j'ai toujours dit que l'OM battrait Villarreal. Je l'ai toujours dit.
Donc tu ne voyais pas sortir des phases de poule.
Je suis très très, oui, peut-être pas. Je suis très très inquiet quand même de quand je vois l'OM jouer ces derniers temps. Il faut quand même pas oublier que l'OM reste sur 4 défaites de suite, et notamment en Ligue 1, dès qu'ils ont joué une équipe qui est dans les 10 premiers du classement de Ligue 1. Donc c'est quand même très très inquiétant. Et je suis désolé, mais je peux les citer si tu veux. Et là, quand tu vois un joueur comme Samuel Gigot, qui en plus de ça porte le brassard de capitaine, mais tu dis, moi je ne suis pas titulaire dans aucune équipe du premier tiers en Ligue 1 déjà. Oui. Il n'est pas titulaire dans aucune équipe du premier tiers du classement en Ligue 1. Je ne le vois pas à Lille, à Nice, à nulle part comme ça, je le vois titulaire. Quoi. Meïté, je ne le vois pas titulaire dans aucune équipe de pareil.
Meïté, c'est très fort.
Même dans les trois premiers, voir un rôle de turnover intéressant en Paris Saint-Germain et tout, c'est un très bon joueur, Mbemba, qui est incertain, ils espèrent qu'il sera là. Mais Ulysse Garcia, Samuel Gigot, il faut arrêter. Il y a Merlin qui est bon 10e, 8e de Ligue 1, mais c'est tout, quoi. Et il y a Klos. Le seul joueur qu'ils ont embêté pendant le mois de janvier, qu'ils ont mis plus bas que terre et tout, c'est le seul joueur qui a le niveau limite international et tout, même si c'est un peu dur pour lui au niveau international, ce qui a le niveau, c'est Jonathan Klos, quoi. Non, moi, je ne sens pas du tout Marseille. Je ne les sens pas maintenant. J'espère que tout peut arriver au foot. Hein. 3-0 à Benfica, moi, je pense.
3-0 à Benfica, tu vois. 3 buts d'écart,
oui. 3 buts d'écart. Je lui paye un resto si ça se passe comme ça.
Voilà. Bah, t'auras un resto si Benfica gagne de plus de 3 points face à l'OM, du moins au match aller.
Au match aller.
C'est bien ça, au match aller.
Ouais,
en tout
au match aller déjà. Au match aller, après, son 3-0, ça sera mort. Mais bon, en tout cas, je vois pas. Maintenant, encore une fois, j'insiste bien pour dire qu'en foot, tout est possible. L'OM peut même perdre contre Annecy en tout est possible. Hein.
Merci beaucoup. Merci.
Et toi, Elad, tu penses quoi, toi?
Merci.
Lille-Marseille qui se qualifie.
Lille-Marseille. Bon, moi, franchement, pour moi, Aston Villa n'a aucune chance face à Lille. Hein. Aller-retour, pour moi, ils vont prendre une valise. clairement. Qui, une valise, si tu fronces les sourcils, ça veut
non,
dire une claque.
Attends, non, mais qui?
Non, parce que t'as dit Aston
Lille,
Villa.
Lille-Aston Villa.
Oui. T'as dit qu'Aston Villa allait prendre une valise.
D'accord.
J'espère que vous avez compris quand même. Je vais faire très vite parce qu'il y a Jason qui est en train de me dire time. Du coup, on va accélérer. Mais en tout cas, pour ma part, en tout cas, si tu voulais savoir, Alexandre, pour moi, Aston Villa vont mettre une valise à Lille, aller-retour. Et pour moi, l'OM Benfica, ça va mal se passer pour l'OM. Bon, je ne pense pas qu'ils vont se prendre une valise non plus, mais je pense qu'ils vont perdre, en tout cas, au moins au match aller, au match retour. Peut-être un petit match nul si la ferveur du Vélodrome est de leur côté, du moins. Du coup, merci à vous tous. Hein. Franchement, merci. Aujourd'hui, on a eu une très belle émission, très bien remplie. On n'a pas pu tous parler et aller à fond dans les débats, mais franchement, on était pas mal. Et j'espère que pour les premières, en tout cas de Némir et de Lucas, j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on vous reverra très prochainement. Dès la semaine prochaine.
Moi, je suis pas sur Paris, donc quand je serai là, je viendrai, mais sinon, c'est un peu compliqué.
Toi, c'est pas sûr que tu reviennes. Hein. T'as quand même dit au rédacteur en chef de l'émission, faut que tu changes de lunettes, un truc comme ça.
Abou qui n'a pas très digéré, mais bon. En tout cas, merci Abou et merci Alexandre, merci Ibrahima, merci à Léo et à Jason Alaria, merci à Stéphane de Deux Enclos du quotidien du sport. On espère revoir Malik très prochainement. Franchement, vous nous avez manqué parce qu'on s'est pas vu la semaine dernière, nos chers auditeurs et auditrices. Et j'espère qu'on se reverra en bonne santé la semaine prochaine. Et à très bientôt. Bisous à toutes.